Cet épisode est sponsorisé par User Testing. User Testing est une solution de collecte de retours utilisateurs et d'insights clients. Dans ce podcast, on parle souvent de la nécessité de tester son produit pour savoir ce qu'en pensent réellement les utilisateurs. Avec User Testing, vous pourrez facilement recruter vos clients et des utilisateurs pour tester vos interfaces, que ce soit un site web, une application ou même des maquettes. Les retours obtenus sur User Testing vous permettront de savoir ce que pensent vraiment vos utilisateurs de vos interfaces et de prendre les bonnes décisions d'évolution pour vos designs. Alors rendez-vous sur usertesting.com afin de comprendre vos utilisateurs et leur délivrer la meilleure expérience possible.
Salut, c'est Gauthier Zimmermann. Il y a quelques années, j'ai décidé de changer de métier et de devenir product designer. Quand j'ai pris mon nouveau rôle, j'avais des doutes et des questionnements sur mon choix. J'ai alors rencontré des designers de tous horizons pour apprendre de leur parcours et de leur expérience. C'est grâce à leur histoire que j'ai pris confiance en moi. Je me suis nourri de leur expérience pour progresser dans mon métier. Aujourd'hui, j'aimerais que chacun ait cette opportunité, grandir en apprenant des histoires des autres. Dans ce podcast, tu vas profiter un mardi sur deux du recul et des réflexions des meilleurs mentors design. Leur parcours est unique, il t'aidera sûrement à construire le tien. Profite de cette discussion pour choisir les conseils qui seront le plus utiles dans ta carrière. Bonne écoute !
Adrien, sois le bienvenu dans ce nouvel épisode de Design Journeys. Je suis ravi de te recevoir. Tu es une des personnes qui m'a été le plus demandé dans le podcast.
Ah ouais.
Ça met un peu la pression dès le départ, mais on m'a dit qu'on allait bien se marrer ensemble, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
D'accord.
Très content de te recevoir parce que tu es également le designer, un des designers de Linear, qui
Exactement.
Fait beaucoup parler de lui, d'elle. Bref, l'entreprise fait beaucoup parler d'elle, surtout pour tous vos designs. On va en parler aujourd'hui. Mais tout d'abord, pour ceux qui celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ?
Bien sûr. Alors, je suis Adrien Griveaux, j'ai 35 ans. J'habite au Portugal en ce moment. Je viens de Paris à la base. Ça fait plus de 10 ans, 12 ans, je pense, que je bosse dans la tech en tant que designer au sens large et product designer ces dernières années.
Ok.
Voilà. J'ai un peu démarré. Région parisienne à la base, j'ai démarré dans les milieux plus du graphisme un peu traditionnel, print et autres. À l'époque, on ne savait pas trop encore ce que ça allait donner tout ça. L'arrivée de l'iPhone a un peu tout changé dans ma vie en termes de perspective de carrière. Je pense que ça a été une grosse ouverture sur plein de trucs excitants à fabriquer, à construire. Gros changement entre designer du print et faire de l'interactif. Enfin, pour moi, c'est deux catégories complètement différentes. Et à l'époque, j'ai pas mal. Donc, j'ai fait des études en alternance. J'ai bossé dans des boîtes des CS2I à l'époque. Il n'y avait pas vraiment le poste product design. Ça n'existait pas vraiment encore. Et j'ai un peu navigué. J'ai monté des projets avec des potes à l'époque. J'ai monté des startups dans mon coin qui ont été des gros fails à l'époque. qui m'ont permis un peu de faire mes armes. Et ensuite, j'ai bossé pas mal dans des agences sur Paris en tant que designer. Je faisais pas mal de web, principalement website. Et ensuite, j'ai rejoint eFounder aussi grâce à Julie qui m'a fait une intro, Julie Chabin à Didier. Et j'ai bossé chez eux. C'est là où j'ai commencé un peu à découvrir plus sérieusement les milieux du SaaS, product design et tout.
Ouais.
Et j'étais en...
Et je te coupe maintenant,
vas-y.
Parce que je sens que t'es parti, et
j'aimerais
bien revenir un peu sur tout ton
vas-y,
parcours.
Vas-y, pas de soucis.
On va s'arrêter déjà sur le début. Tu parlais du graphisme au départ, du print. Toi, comment t'en es venu à faire du design ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans ?
Alors moi, c'est un peu par hasard. En fait, j'étais un peu... moi, après mon bac, j'ai fait une école de commerce pendant quelques mois... qui a été un gros échec, un gros fail. J'ai rapidement abandonné. J'avais... fait pas mal de dessins jeunes, mais honnêtement, j'avais jamais trop... je savais même pas que ça existait en fait comme métier, pour dire à quel point j'en étais. Et je faisais du skate à l'époque avec un pote à moi qui me dit « Tiens, mais je fais un BTS communication visuelle, c'est quoi ce truc ?» Et je me dis « Attends, mais on nous payait pour faire des trucs comme ça ?» Vraiment. Et en fait, voilà, quoi, c'est un peu arrivé comme ça. J'ai fait des cours du soir, j'ai bossé dans des... j'ai cherché des écoles, mais j'avais déjà... j'étais assez vieux déjà, je suis revenu en école vers 22-23 ans. Et en fait, je suis un peu arrivé là-dedans par hasard. Après, je pense que j'ai pas mal été recruté au début pour mes talents d'illustrateur.
Okay.
J'aime beaucoup dessiner, c'est même des trucs que je fais toujours dans certains de mes projets.
Ouais, on va en parler. Ça. Mais du coup, ça veut dire que, parce que de ce que j'ai compris, t'as fait une mana, c'est ça au départ ?
J'ai fait une mana, ouais. J'ai fait une mana.
Donc c'est à ce moment-là où tu te demandes ce que tu peux faire et...
À ce moment-là, je me demandais un peu ce que je voulais faire. Ouais. Ouais. Je me demandais un peu ce que je peux faire. Et en fait, quand je rentre en BTS, il y avait un peu à l'époque, c'était BTS. Soit tu faisais du print, soit du web. En gros, ça s'appelait design interactif, je crois, à l'époque.
Ouais.
Et je pense que j'avais un petit côté un peu que j'aimais bien sur le côté design interactif web, c'est que tu n'avais pas les imprimeurs. et que si tu avais une idée, tu pouvais la construire à la sortir, quoi. Et en fait, ça, c'est un truc que j'adore dans cette industrie, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin de... Si tu as envie de faire un truc solo, tu peux faire un truc solo, quoi. Et tu n'as pas besoin de demander l'autorisation des autres, tu n'as pas besoin d'être publié, etc., etc. Et en fait, je trouvais que c'était aussi beaucoup plus excitant parce que c'était encore quelque chose qui était à construire. Maintenant, il y a des codes un peu plus qui existent, mais encore une fois, on voit qu'il y a énormément d'innovation encore qui se fait en termes de design. Et je pense que le print, pour moi, c'était un peu déjà poussiéreux et qu'en fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus grand-chose à amener. Je sais que les designers print seront pas contents qu'on dise ça, mais en fait pour moi c'est même pas du tout le même boulot en fait tout simplement. Donc voilà. Mais par contre j'ai tiré beaucoup de connaissances typo et autres à l'époque sur ces trucs là quoi. C'est clair que c'était à l'époque ceux qu'il fallait regarder pour tout ça quoi. Maintenant on a un peu changé de délire mais.
Et tu l'as dit tout à l'heure, t'as fait de l'alternance.
Ouais.
Quand tu faisais de l'alternance à ce moment-là c'était quoi? C'était en 2009-2011.
Ouais.
Tu fais déjà du web? Parce que je crois que tu étais en agence, c'est ça?
Alors, j'étais, avant d'être en agence, j'étais dans une SS2I qui faisait des e-learning.
Ok.
En fait, il faut imaginer que tu as 22 ans, tu n'as pas de folio et il te faut une alternance pour payer ton école. Donc, tu prends un peu ce que tu as, en fait. Mais en vrai, honnêtement, non, mais j'ai trouvé, j'étais très bien là-bas. Justement, je suis tombé un peu sur des gens qui n'étaient pas du tout dans les startups, mais qui savaient qu'on se codait. Enfin, qui m'ont filé des bouquins de CSS à l'époque pour apprendre le CSS. On était dans un truc un peu old school en termes de vision du web. Mais en fait, en même temps, c'était un peu SS2I où tu fais un peu tout et n'importe quoi à la fois. Donc, j'ai plus en fait, consolidé des bases techniques chez eux que des bases graphiques purement. Okay. Je pense pas que c'était le meilleur tremplin pour ma carrière en termes de visuel à l'époque, mais ça m'a permis d'apprendre un peu dans le dur avec des clients qui connaissent rien à ce que tu fais, donc c'était assez challenge. Mais bon, j'étais très content de partir à la fin de ces deux ans quand même. Mais
du coup, la première question que j'ai à te poser, c'est t'as fait une alternance pour payer tes études ou parce que ça t'intéressait de faire
Honnêtement, c'était un peu les deux. Après, je pense que l'école, moi, j'adorais l'école parce que t'as un côté beaucoup plus expérimental en école d'art. Hein. Je pense que c'est un peu des fois des trucs que j'aime bien des fois me remettre un peu en mode école d'art où t'as pas trop de limites parce que je trouve que c'est quand même des années qui sont assez cool, quoi. Ouais. Tu testes un peu tout et n'importe quoi. Tous les jours, t'apprends des nouveaux trucs.
C'est marrant que tu dis ça parce que la plupart des invités que j'ai eu qui ont fait une alternance, genre vous voyez, qui ont fait des BTS et des alternances, me disaient toujours genre l'école c'est cool, ça t'apprend des bases théoriques, mais après c'est un peu chiant et du coup le fait d'aller en entreprise c'est genre le méga tremplin. Et toi j'ai l'impression que t'es
alors oui, c'est sûr que moi ce que je trouve pas chiant dans l'école c'est que justement tu peux aller regarder des ressources, t'intéresser à plein de styles qui sont très différents du tien, aller explorer des choses qui n'ont pas forcément un autre but à être produites, mais travailler énormément ta technique, travailler tes connaissances surtout en design. Je pense qu'il y a énormément de ressources, de bouquins, t'as du temps pour faire ça en fait. Ce qui est vrai que quand tu bosses en entreprise, d'un coup ce temps il se retraint beaucoup plus. Par contre après si t'as développé des bonnes méthodes de recherche, bah tu peux aussi rapidement trouver des choses. Mais c'est vrai que moi je pense que l'école, moi, c'était des belles années, quoi. J'ai bien aimé, justement. Après, c'était un peu, je pense, écumer mes soifs de vouloir faire de la créa et que c'était le moment de le faire. Après, on n'a pas tous eu les mêmes expériences à l'école, je pense.
Ouais, j'imagine. Et du coup, toi, après ton BTS et ton alternance de 2 ans, tu continues, tu fais un bachelor, c'est ça?
C'est ça. Je fais un bachelor de gestion de projet.
Ouais, je voulais te demander pourquoi.
Pourquoi? Parce que je pense que mes parents pensaient que c'était bien que j'ai une licence et qu'ils étaient très déçus que j'ai pas fini mon école de commerce. Non, pas du tout. Mais non, en fait, j'avais un peu envie de. J'avais commencé à bosser justement un peu sur des projets web un peu gros et j'avais vu qu'il y avait un peu ce côté justement. Ce qui me manquait un peu dans la partie designer, des fois que je trouvais, c'était très restreint et c'était un peu top-down, surtout en France à l'époque, en termes de management. C'est-à-dire que toi, t'arrivais, t'avais déjà des chefs de projet qui avaient un peu fait de la UX, exécuté des choses. Et je pense que dans le design, il y a autre chose qui n'est pas que de l'exécution visuelle, mais qui est aussi de la compréhension des projets, de la manière comment aussi savoir un peu scoper des choses, etc., que je trouvais qu'on n'avait pas trop travaillé en école. Et bon, honnêtement, ça n'avait pas été un franc succès cette école, mais j'ai la grosse outcome, c'est que j'ai pu être avec Benjamin Gudge à l'époque dans la même classe et on s'est rencontrés. C'était une très belle rencontre, très inspirant. Et donc, ça a été plus une année où on se tripait à créer des faux projets avec Benjamin Gudge que vraiment construire des...
T'as créé quoi comme projet ?
On avait fait quoi à l'époque ? On avait fait une app pour... On avait designé une app pour... Une fausse app pour Subway à l'époque, en SQO, où tu pouvais même appuyer sur les trucs de boisson avec des animations et tout. On avait fait... Enfin, plein d'idées qu'on avait un peu. Lui, des idées qu'il a développées d'ailleurs, je crois. Mais c'était plus lui, il m'a pas mal ouvert les yeux sur un peu tout l'univers macOS. Moi, j'avais un PC encore à l'époque et tout. Hein. J'étais vraiment à l'arrache de regarder un peu les UI, de rentrer un peu dans l'univers Apple. C'est un gros fan Apple. À l'époque, il était. C'est un des mecs qui m'a un peu mis là-dedans. Et c'est vrai que je connaissais pas trop. Et donc, c'était plutôt des années de encore travail. Je travaillais en agence, par contre, à l'époque. Une agence qui s'appelait Waxo. Qui n'existe plus, je crois. J'ai refait le design du site du CNES à l'époque. Je crois que c'est toujours le design d'ailleurs.
Ah ouais
qui est live. Je suis allé voir il n'y a pas très longtemps. Alors, bon, voilà, c'est une de mes archives, une casserole si vous voulez. Mais c'est mon plus vieux projet still online.
Et de toutes ces années là, d'école, on en parle un peu d'apprentissage. Toi, t'en retiens quoi?
Moi, j'en retiens quoi ? J'en retiens, je pense que, en fait, on peut pas. C'est dur de savoir de quoi l'avenir va être fait. Moi, c'est vrai que quand on était en design interactif, je faisais des sites en Flash à l'époque. En fait, tu te mets dans un. T'apprends des choses qui vont peut-être être désuètes ou qui sont peut-être déjà même plus d'actualité. Par contre, t'apprends de la rigueur à essayer d'être bon là-dedans et je pense que l'école, le fait que tu bosses pas sur des projets qui soient réels, tu peux aussi rapidement te confronter ou t'identifier à des designers qui mettront peut-être 50 ans à devenir ce qu'ils sont. Et toi, à te dire, tiens, imagine, je ferais comme lui ou j'ai envie d'apprendre ce style, tu peux copier complètement abondamment. Il n'y a pas de limite, en fait, dans ta créativité. C'est que toi, et justement, avec tes petits moyens d'étudiant, comment tu peux faire quelque chose qui pourrait être quelque moins dingue. Et donc, tu te confrontes vraiment au mur, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu un moment où tu peux expérimenter beaucoup de choses, comprendre là où t'es bon, là où t'es pas bon. Et si t'es pas bon, aussi passer des heures à apprendre un truc. Moi, j'ai fait du motion à l'époque en école. J'ai fait un peu de print aussi. Je faisais de la sérigraphie avec des potes. Enfin, c'est des moments d'expérimentation qui m'ont beaucoup servi dans ma carrière plus tard aussi. Parce que c'est un moment d'ouverture sur tout ce que le design peut être, quoi. Qui est l'art en sens large.
Du coup, en sortant d'école, tu te considères comme quoi ? Tu te considères comme web designer, illustrateur ? Parce que on va en revenir, mais dans ta carrière, tu as un peu les deux. Enfin, tu es sur deux jambes, l'illustration, le product design, à l'époque le web design. Hein. Mais du coup, en sortant d'école, tu te considères comme quoi ? Designer, illustrateur ? Parce que il me semble que tu fais du freelance juste après. Donc en fait, comment tu te situes ? Comment tu te places ?
Moi, j'avais envie de faire plus du produit. Donc ça, c'était un peu... Après, j'avais pas encore, je pense, les refs et les compétences pour le faire. Et j'étais pas très bon et je comprenais pas trop comment j'allais pouvoir rentrer là-dedans. Alors qu'en illustration, j'avais un background plus gros, aussi en branding. Et donc, c'était plus simple pour moi de rentrer dans la tech par cette porte-là à l'époque. Donc, c'est un peu un truc que j'ai utilisé pas mal pour rentrer. Ifondeur, je suis rentré en brand et en illustration. Je faisais pas de produit chez eux.
D'accord.
Et aussi, j'étais un peu un ovni, je pense, en tout cas sur Paris, peut-être un peu, à l'époque, qui s'intéressait énormément à la tech, je m'intéressais même à la manière dont la tech fonctionne au niveau business et autres, mais qui avait un background plus brand d'illustration. Maintenant, il y a de plus en plus de monde qui fait ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, en fait, on n'était pas beaucoup à faire ça. Et donc, j'avais pas mal de demandes, je rencontrais pas mal de gens, donc c'était une bonne carte de visite, honnêtement. Et ça m'a appris à bosser avec des ingénieurs, et donc j'avais un peu un rôle product illustrateur à un moment donné même, où en fait justement j'amenais un peu cette couche de branding dans les produits, etc. Okay, donc c'est comme ça, par exemple, que je suis entré dans le produit un petit peu.
Chez Ifondeur, du coup ?
Chez Ifondeur, je fais pas mal, tu vois, des empty states, des icônes, etc. pour l'app. Forcément, on bossait aussi avec les product designers ensemble, donc on avait un peu des interactions. Donc c'est là où je suis vraiment rentré dans ce milieu, que j'ai compris à quel point c'était... compliqué et intéressant en même temps, et exigeant. Et ouais.
Ok, et donc du coup, juste avant Founder, t'étais en freelance, c'est ça ?
J'étais en free, ouais.
Et t'as fait ça pendant 2 ans ? Tu faisais quoi pendant ces 2 années-là ?
Je bossais sur des petits projets que j'avais moi à l'époque. C'est des cette idée de start-up que j'avais envie de créer, en fait, tout simplement. Et j'ai bossé pour des clients. C'était vraiment des small contracts que j'avais à gauche, à droite, avec des petites start-up. On parle d'une époque où tu levais 300 000 balles à Paris, t'étais un chef. Hein. C'est-à-dire que c'était... Bon, il y avait des grosses levées déjà aussi, mais je veux dire, on était... ouais, c'est ça. On était au début de The Family. Enfin, voilà, la scène start-up n'était pas la même qu'actuellement. Tu rencontrais tout le monde et tout, n'importe quoi. À l'époque, c'était très dur de savoir qui faisait quoi. Donc, j'ai pas mal expérimenté avec des small startups early stage. C'est là où j'ai découvert aussi beaucoup le early stage dans les startups, qui est un truc que j'affectionne particulièrement. Enfin, c'est l'endroit où j'aime le plus bosser. Après toutes ces années, je peux m'en rendre compte. et c'est vrai que j'ai pas mal. Hein, c'est là où j'ai commencé un peu à faire mes armes et à comprendre aussi, OK, comment on crée une boîte, comment les gens veulent bosser et qu'est-ce que les designers font à l'intérieur, quoi.
Ok. Et du coup, comment se fait le passage de freelance à iFounders? Qu'est-ce qui te donne, enfin, entre guillemets, envie d'arrêter le freelance, ou qu'est-ce qui te pousse à arrêter et à rejoindre le studio de startup?
Je pense qu'il y avait plusieurs trucs. Je pense que le premier, c'était que j'avais été content de rebosser enfin avec des designers. À l'époque, il y avait un espèce de petit design crew en interne qui était managé par Didier. Et on était 5-6 designers à bosser ensemble. Et en même temps, je bossais sur plusieurs projets iFounders. Donc en fait, il y avait un peu toujours ce côté entre guillemets freelance où en fait mes clients en interne, c'était les projets iFounders. Donc moi, j'étais un peu ce qu'ils appellent la core team, quoi, iFounders. Donc j'avais quand même cet aspect multi-projet encore actuellement.
Ok.
Et après, un truc que j'ai réalisé beaucoup en étant freelance, c'est que l'impact que tu vas avoir sur un produit et ton level aussi de communication qu'il y a avec les fondateurs est pas du tout le même, en fait. C'est-à-dire que malheureusement, en freelance, t'as une mission, tu viens, tu t'en vas, tu ships un truc, mais bon, est-ce que finalement c'est ça qui a fonctionné, tu sais jamais trop. Et donc, si t'es intéressé un petit peu par les startups et les boîtes tech de manière générale, tu te rends compte que ça prend aussi du temps de faire des produits, que c'est beaucoup d'itérations. On est quand même l'industrie de l'upgrade, quoi. Les gens aiment updater et payent pour ça, donc c'est quand même la puce, le point fort de la tech, faut jamais l'oublier. Donc voilà, c'est un truc qui se fait avec le temps et qui demande à ce que tu sois en permanence en train de rechercher comment améliorer des petits trucs. Et c'est vrai qu'en free, bon, tu vas donner une direction, mais tu vas jamais vraiment itérer sur ces points là ou sinon, en fait, au bout d'un moment, t'es plus vraiment freelance, quoi. Donc c'est ça qui m'avait frustré un peu à l'époque et qui m'a donné envie de rejoindre iFounders. Ça a été aussi le projet iFounders en soi, honnêtement. C'était pour moi une des premières fois que je voyais des startups qui s'intéressaient vraiment au design, aussi par l'impulsion de Thibaut, qui aime bien le design, Thibaut le dire, fondateur d'iFounders, c'est des gars qui mettaient des moyens dans le design à l'époque, qui ont vraiment voulu aussi énormément mettre ça en avant auprès de leur boîte. Et c'était un discours finalement qui n'était pas très très courant à Paris à l'époque. Ouais. C'est toujours pas non plus énormément le cas, je trouve, parfois. Mais voilà, en tout cas, c'était la première fois qu'on parlait avec des fondeurs qui avaient compris à quoi servait le design et qui avaient envie que les designers aussi aient une part dans le projet importante. Donc ça, c'était aussi c'était plus la proposition des fondeurs, honnêtement, qui m'a fait passer en full time qu'en soi, moi qui recherchais un poste full time, pour être honnête.
Du coup, la question à un million, c'est pourquoi tu restes que un an là-bas? Parce que les projets sont chouettes.
La question à un million. Je pense que moi, ça a été un bon tremplin pour ma carrière. Après, il faut savoir que je pense que l'époque du startup studio iFounders était en démarrage à l'époque. Ils n'avaient pas à l'époque, c'était la première année de startup studio, donc il y avait quand même pas mal de tests, de try dans tous les sens. Je pense qu'ils ne savaient pas trop eux non plus comment ils allaient moduler tout ça. Et honnêtement, je pense que j'ai pas trouvé en interne un projet sur lequel j'aurais pu rejoindre full time. Et j'avais envie pas mal de bouger aux US aussi à l'époque. C'était une de mes envies.
Okay.
Donc moi, j'étais aussi un peu parti dans cette idée-là dans ma tête. Et donc j'avais un peu envie de. C'était une année qui était bien, mais qui m'a permis de me propulser un peu ailleurs, quoi.
Ok. Et donc du coup, ça veut dire que malgré le startup studio, tu bougeais en fait de projet en projet. Et ça revient un peu à ce que tu disais sur le rôle de freelance, qui est de se dire tu commences et après tu bouges. C'était ça en fait, t'intervenais quand on avait besoin de toi.
Et moi, j'étais sur un poste aussi à l'époque de brand. Donc j'étais pas d'illustration, j'étais pas sur du produit, même si j'intervenais beaucoup sur les produits, mais je veux dire de manière pas focus. Et donc je cherchais plus un poste de product design, j'avais envie d'évoluer vers ça et je sentais pas que ça pouvait être faisable en interne diffondeur à l'époque.
Ok. Ce qui t'amène chez PrestaShop ?
Ce qui m'amène chez PrestaShop grâce à Julie. Très Julie Chabin qui bossait chez PrestaShop à l'époque. Je sais pas si elle l'a mis dans son, si c'est toujours son CV, faut peut-être faire gaffe. Je veux pas en parler.
Je crois qu'on en a pas parlé durant son épisode.
Donc faut vérifier avec elle si elle veut en parler.
Attends, je revérifie parce que je l'ai enregistré il y a pas longtemps. Est-ce qu'on a parlé de PrestaShop avec Julie? Tac.
Mais bon, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à raconter non plus, qu'on n'est pas resté très longtemps. Je pense que c'était une époque où PrestaShop était en train de bouger entre une plateforme un peu open source vers, ils essayaient de partir vers le SaaS et le cloud.
Okay.
Donc, encore une fois, là où j'ai appris que j'aimais bien les projets early stage, c'était là, j'arrivais pas du tout sur un projet early stage. PrestaShop, c'était vraiment en place de malade à l'époque. Donc là, l'idée, c'était qu'on arrivait un peu et qu'on donne un peu une idée de ce que ça pourrait être une startup à une boîte qui n'était pas du tout une startup à la base. Donc, gros challenge. Et on a testé, mais ça a pas très, très bien fonctionné, honnêtement.
Ah, parce que t'es resté que 3 mois.
Peut-être parce que je suis resté que 3 mois et peut-être...
Non, je veux dire, t'es resté que 3 mois parce que ça marchait pas très bien. C'est plus dans ce sens-là.
Je pense qu'on s'est pas senti très à l'aise dans cette entreprise.
Ok, voilà. On passe à la suite du coup.
On peut passer à la suite.
Du coup, quelques mois plus tard, tu vas chez Microsoft en tant que product designer cette fois-ci.
Ouais.
Chez Microsoft, en plus aux États-Unis à New York.
Ouais.
Donc, ce que tu voulais faire. Pour remettre dans le contexte, donc t'arrives en mars 2016. En février 2016, Microsoft rachète Sunrise, qui était une application de calendrier à l'époque sur iOS.
Yes.
Et cette équipe est intégrée pour faire Outlook mobile qui n'existait pas à l'époque.
Exactement.
Donc du coup, deux questions toutes simples. Qu'est-ce qui t'a amené chez Microsoft et pourquoi New York ? Mais New York, ça j'ai plus ou moins compris, mais comment ça s'est fait ?
Alors moi, j'étais déjà allé pas mal de fois aux US avant. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été attiré par New York. Je trouve que c'est le bon compromis entre l'Europe et les États-Unis.
Ouais.
Et donc moi, c'est le maximum américain où je peux être. Je pense que c'est New York. Même si j'adore plein d'endroits aux États-Unis, j'aime beaucoup ce pays. En fait, Jean-Marc Denis, que je contacte à l'époque en disant tiens, je vais bouger à New York, est-ce que tu connais des teams? Moi, je connaissais Sunrise, j'étais utilisateur à l'époque, gros fan de leur boulot, et en fait je savais pas du tout qu'ils avaient des bureaux à New York en fait à l'époque.
Okay.
Et donc Microsoft avait gardé ses bureaux de Sunrise, donc on était la seule team produit de tout Microsoft. La team produit de Microsoft, c'est plutôt côte ouest. Donc on était la première team produit, il y avait encore les bureaux de Sunrise, donc c'était assez, ça a été une super expérience honnêtement.
Attends, c'est Jean-Marc Denis qui
m'a fait une intro à Jérémy Levent, qui était un des cofondateurs de Sunrise.
Ok.
Mais moi j'ai pas déposé de CV depuis très longtemps, moi je marche que avec Twitter.
Ah ouais, non, mais
gros conseil, si vous cherchez du boulot, allez sur Twitter.
En fait moi ce qui me fait surtout marrer là-dedans, je veux pas te mentir, en préparant l'émission, tu m'as dit que t'avais écouté l'épisode de Jean-Marc. À l'époque, en fait, lui, il avait bossé pour Sparrow,
ouais,
qui a été intégré et racheté par Google pour être mis, ouais, dans Gmail. Et toi, en fait, du coup, il te fait une intro pour bosser pour le concurrent de Gmail Mobile à l'époque.
Ouais, ouais. Bon, après, c'est là où il faut aussi comprendre que la tech, c'est un petit milieu, ouais, et que vous allez recroiser souvent les gens avec qui vous bossez. Je pense que pas mal de gens le savent déjà. Mais voilà. Non, ouais. Après, c'était... c'était concurrence sans être concurrence, si c'était une grosse concurrence honnêtement. Mais je pense que lui, il était un peu sur le départ déjà de Google à l'époque quand il m'a fait cette intro. Et il y a un peu un délire aussi French Mafia aux US, des gens de la tech, on se file des bons plans quoi. C'est un peu le délire aussi.
Du coup, Outlook mobile à l'époque, c'est zéro. T'arrives dans, t'as tout à construire.
Ouais.
Comment est-ce que tu veux bien? En fait, j'avais parlé de Jean-Marc parce que lui, quand il est arrivé, il avait tout à construire sur Gmail mobile. Et du coup, j'aimerais bien un peu savoir comment ça s'est passé en fait, parce que t'arrives et.
Alors moi, j'arrive, je suis pas produit, je suis encore brand designer,
ah ouais,
icon designer chez eux. J'ai réutilisé ma carte pour rentrer, mais c'est là où j'ai, ces années-là où j'ai fait vraiment le move sur le produit en apprenant avec les mecs de la Team Sunrise, honnêtement, qui m'ont fait un transmission de savoir assez dingue à l'époque. En fait, il y avait une app qui existait, il y a une app PhoneGap qui existait sur Apple. C'était un web mobile qui existait sur l'Apple Store, qui a toujours été en activité pendant très longtemps, même alors qu'on avait release les premières versions d'Outlook. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi la période où Microsoft arrête Windows Phone.
Mmh.
Donc, c'est la période où Microsoft se pose la question de se dire « Ok, sur mobile, on n'a plus d'OS. Le mobile, c'est en train de défoncer tout. Donc, comment on existe en tant que Microsoft chez Apple, surtout qui est quand même la némésis de Microsoft depuis très longtemps. Enfin, je veux dire, philosophiquement pour eux, c'est très très dur d'assumer qu'il y a des mecs qui viennent de racheter, qui ont des Mac et des iOS, qui n'utiliseront jamais Windows et qui bossent pour eux. C'était déjà ça, c'était un peu nouveau pour eux. Mais honnêtement, ça a été là où Microsoft est très fort, c'est qu'ils ont très bien compris qu'il y avait quelque chose à exploiter là-bas. Et au contraire, justement, ils ont énormément... ils nous ont laissé dans notre coin, ils nous ont laissé le bureau, on était chez Microsoft, mais on était quasiment totalement, pendant le premier temps en tout cas, quasiment indépendant sur ce qu'on shippait, la manière dont on shippait. C'est pour ça que ça allait très très vite aussi pour versus d'autres projets qui sont des projets internes beaucoup plus longs. Et honnêtement, ça a été ça le défi à l'époque qu'ils nous ont présenté. Étant donné que on arrivait aussi avec une autre team qui s'appelait Accompli, qui avait été rachetée aussi à l'époque, en fait, ils ont mergé deux teams qu'ils ont rachetées ensemble, qui eux venaient du mail. Donc en gros, il y avait un peu une interconnexion entre ces deux teams. On essaie de builder un produit ensemble. Et je pense qu'il y avait une passion du craft, etc., du produit, même chez Outlook à l'époque. Enfin, c'était notre produit, quoi. On avait très très peu d'interaction avec le siège, ou en tout cas Jérémy Levon, ancien cofondateur de Sunrise, qui faisait un peu la zone tampon avec Microsoft et qui nous a un peu protégé entre guillemets pendant pas mal de temps pour qu'on ait un peu d'autonomie et qu'on soit un peu libre de faire ce qu'on voulait.
Ok. J'ai une question là-dessus, ouais. Du coup, c'est ça veut dire que vous n'avez pas interagi avec les équipes d'Outlook Desktop et Navigator, parce que c'est un peu la question que je me suis posée en partant d'un produit de zéro avec une équipe qui est un peu indépendante. C'est comment tu fais pour d'un côté proposer un nouveau produit, une nouvelle expérience sur mobile, et en même temps faire en sorte que de prendre la continuité d'un produit qui existe déjà depuis super longtemps.
Ouais. Alors bon, Outlook Desktop, c'est une app déjà qui est très très compliquée. Hein. Enfin, c'est pour les gens qui l'ont déjà utilisé en interne, tu peux faire énormément de choses.
Ouais.
Donc là, l'avantage, c'est qu'on avait déjà ce rôle de dire, ok, on va prendre l'essentiel d'une app mail et d'une app calendar, les deux dans la même app aussi, ce qui était c'était des discussions aussi qui ont existé. Est-ce qu'on fait deux apps ou une seule app? Outlook, c'est une app où t'as les deux ensemble. Donc on était obligé un peu de garder ça, c'est l'essence même du produit. Et je pense que la manière dont Microsoft a abordé le truc, ou en tout cas nous, la manière dont on a présenté les choses, c'est qu'en fait, justement, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'innover aussi sur le mobile et de ramener ça aussi sur le desktop, et leur expliquer que finalement on avait aussi, tu vois, même le design Android et le design iOS, c'était pas le même. Et l'idée qu'on avait derrière tout ça, c'est d'être le plus native friendly, c'est-à-dire que si moi je suis un utilisateur iOS, j'évolue dans un écosystème iOS en permanence et j'ai envie d'avoir une app qui ressemble à toutes les apps que j'utilise. Et notre concurrent à l'époque, c'est Gmail et Mail, quoi, en gros. C'est vraiment les apps de base que tu as sur ton iPhone, en tout cas les gens ont ça le plus. Donc l'idée, c'était pas non plus de présenter quelque chose de ultra défiant toutes les UI que tu avais vues avant, c'était justement de s'intégrer le plus dans l'OS en apportant la petite touche Microsoft et Outlook. Et comme ça, en fait, on avait une bordée énormément d'users qui, d'un seul coup, installaient une nouvelle app qui avait des fonctionnalités nouvelles, mais qui, au final, en termes d'usage, copiaient ce qui existait un peu déjà ailleurs. Donc, c'était beaucoup de les discussions design qu'on avait à l'époque. C'était vraiment comment on fait un truc le plus natif possible. Et en même temps, pour amener un univers Microsoft sur les plateformes, encore une fois, Android et iOS, sur lesquels il n'y avait pas du tout de visual language développé ou quoi que ce soit, quoi.
Ok. Visual language, qui est le méga design system de Microsoft.
Ouais, non, mais quand je disais visual language, c'est qu'en gros, Android, il y a une certaine manière de faire du design, présenter les choses, et iOS aussi pareil. Et
surtout à l'époque, ils étaient sur deux paradigmes complètement différents.
Exactement, hein. Et surtout, t'as un visual language Microsoft, comment tu le tournes sur du Apple ou du Android, quoi. Ça, c'était assez intéressant de faire à ce moment-là.
Et toi, à quel moment tu fais le switch là-dedans? Parce que si tu designes des icônes, des empty states, à quel moment tu pars à fond dans le produit? Bon, en tout cas...
Bah, ça s'est fait en discussion. Après, encore une fois, on était vraiment une toute petite équipe. Hein, là.
Vous étiez combien?
Quand on design, on devait être... Il y avait moi, Bobby, Harry, on devait être 5 ou 6.
Ah ouais.
À max. Donc, en fait, on n'était pas non plus besoin... Il n'y avait pas non plus besoin de discuter énormément. On galérait pas mal à recruter des designers aussi en même temps. C'était pas été la raison pour laquelle j'ai bougé sur du produit. Mais en fait, C'était assez compliqué, honnêtement, parce que bon, bah, Microsoft, ça excite pas grand monde, en fait, finalement. Et l'histoire Sunrise, avec le temps, bah, le sable s'était un peu accumulé sur la tombe de l'app. Et donc, bon, les gens connaissaient plus trop. Et bon, voilà, c'est pas les mêmes ambitions. Et en fait, moi, j'ai énormément bossé avec Victor, Harry, Bobby et Christophe à l'époque. Et ils m'ont beaucoup enseigné, en fait, le product design. L'approche était vraiment très, très très bonne, et en fait ça s'est un peu fait naturellement. En fait, j'ai commencé à bosser sur des petites features, ça marchait plus ou moins, et en fait ils m'ont laissé après quartier libre. J'ai juste changé de poste, quoi, mais c'était pas...
Ok, et tu parles de petites features là comme ça, du coup comment vous avez fonctionné, c'est-à-dire que vous avez essayé de faire une app et vous l'avez release au fur et à mesure où vous, ouais, vous aviez des retours, ou est-ce que vous avez pris le temps de, je sais pas, faire des tests utilisateurs, bien packager le truc avant que ça sorte?
Non, honnêtement, il n'y a pas eu très peu de tests utilisateurs pendant au départ,
ouais.
Justement, c'était très on faisait notre changelog avec Alice une fois par semaine. C'était vraiment, l'idée c'était de matcher un peu l'expérience qu'ils avaient eu chez Sunrise, okay, en termes de flow, et de shipper au plus vite possible, quoi.
Et si j'ai bien fait mes recherches, l'app est passée de 0 utilisateur à 100 millions en, ouais, un an. Comment on appréhende ça? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits sur lesquels tu passes de 0 à 100 millions en un an.
Non.
Comment tu t'appréhendes ça? Comment tu t'assures que ensuite, ce que tu fais pas de conneries, que le produit reste... Tu auras toujours des gens qui sont mécontents, mais comment tu fais pour faire en sorte d'avoir un espèce de compromis, surtout sur une app comme celle-là?
Alors, bon, on parle quand même d'une app de mail et de calendrier, donc je, oui, pense qu'il y a déjà, toi, en fait, des frustrations personnelles que tu as sur le produit de manière générale. Outlook, c'est quand même une app à la base qui est principalement pour des gens qui font beaucoup de mails. Mm. C'est un truc pour les entreprises à la base. L'app était gratuite, donc tu pouvais l'utiliser sans avoir de compte aussi. C'était un peu, on avait beaucoup d'utilisateurs consumer, entre guillemets, donc on avait un peu un mélange d'utilisateurs. Et la vision aussi à l'époque, c'était beaucoup de... comment on ramène du consumer un peu dans le SaaS, comment on est un peu plus productivité oriented et beaucoup moins justement outil pro. Donc en fait, l'idée c'était aussi que Outlook ce soit une porte d'entrée vers les produits Microsoft pour des gens qui soient sur de l'iOS. Donc en fait, ça s'adressait quand même pas mal à des gens qui étaient, malgré le nombre d'utilisateurs, friands de justement « Ah, sur Gmail, j'ai pas assez de features pour bosser. Apple Mail, j'ai pas assez de features. » Donc en fait, comment on peut leur apporter un petit peu plus de tools de productivité en intégrant peut-être aussi le calendrier un peu mieux dans les emails. On avait un espèce de... Le design des mails, ça ressemblait plus à un chat, entre guillemets, que vraiment à un côté email où tu sais, t'as tout le content qui se met en permanence. Donc c'était vraiment optimiser des trucs qui nous saoulaient dans les apps d'email de base, et je pense que la team et Microsoft l'avait bien senti chez la team Sunrise, en tout cas, que voilà, il y avait une appétence de faire du produit dans tous les cas, et donc il y a un peu un truc naturel en fait qui se faisait. On a commencé à faire du user research et un peu de feedback sur quand on arrivait sur les fonctionnalités que nous on n'utilisait pas, c'est-à-dire il y en a qui ont des folders énormes, ils rangent leur mail partout. Bon, moi c'est pas trop moi j'étais plus inbox zéro comme gars, tu vois. Mais voilà, t'as des trucs comme ça un peu.
Ouais, ok, au départ, vous faites à peu près tout ce que vous devez faire, le must-have, et au fur et à mesure.
Il n'y avait rien, donc déjà à moins pour aller lire des mails et répondre.
C'est sûr.
Et après, ouais.
Tu retiens quoi de ton année chez Microsoft?
Alors, il s'est passé tellement de trucs chez Microsoft que je retiens beaucoup de choses. Moi, déjà, c'était un peu dingue, comme tu disais, 0 à 100 millions, de bosser sur un projet aussi gros. Chez Microsoft, t'as des moyens surdimensionnés. C'est-à-dire que tu veux demain matin aller à San Francisco rencontrer ce mec-là, t'as juste à demander et c'est fait.
Wow.
Donc non, mais en fait, ouais, de voir aussi à quel point les mecs n'avaient pas de limites en termes d'ambition et qui donnaient les moyens pour y arriver, en tout cas le plus possible. Et donc c'est ça, bosser en day-to-day avec des gens que j'admirais aussi un petit peu avant d'arriver chez eux. Donc ça, c'était trop cool d'apprendre d'eux, de toi aussi un peu, qu'il est ton ego des fois, en te disant tiens, en fait j'aurais dû faire les choses comme ça. Donc beaucoup de discussions sur le design, beaucoup aussi de un peu de, tu, quand t'es dedans en fait tu te rends pas compte de tout ça, et donc t'es un peu la tête dans le guidon, tu fais des trucs, tu fais ton boulot, les 100 millions c'est pas un truc qui m'affectait énormément, mais c'était plus par contre tu prends le métro, il y a quelqu'un qui utilise ton produit, t'es derrière lui et tu le vois faire ses mails sur la feature que tu viens de shipper, y a un côté cool quand même. Et ça, moi, c'est un truc qui m'est beaucoup resté, justement, de me dire ok, tu peux faire des produits qui peuvent peut-être être les plus boring de la terre, mais ça peut être pas boring pour plein de gens si tu te débrouilles bien. Et donc il y avait ce côté un peu, ça a un peu raise la barre de mes expectations pour la suite de ma carrière en me disant ok, je sais maintenant ce qui m'intéresse dans certains projets ou pas quoi.
Qu'est-ce qui te pousse à partir ?
Ce qui me pousse à partir, c'est que j'avais, en fait, la team Sunrise bossait beaucoup sur GitHub à l'époque.
La transition va être facile.
La transition va être facile. Ah bah c'est la transition, la vraie transition. Non voilà. Et en gros, moi, je découvre complètement GitHub à l'époque. Je disais pas du tout. Et ils utilisaient GitHub donc pour le code, mais aussi comme un espèce de forum de discussion géant où en fait il n'y avait aucune décision qui était prise sans qu'elle soit discutée sur GitHub. Mais vraiment, je crois qu'ils ont même, il y avait Slack quand j'ai join, mais je crois qu'ils ont même bossé sans Slack pendant pas mal de temps. Et en fait, j'arrive là-bas et premier jour, bah, j'ai 5 issues où je suis assign, et des trucs qui sont ouverts depuis mais super longtemps. Et donc, en fait, j'ai toute la backstory de « Ah tiens, il faudrait faire ça un jour, nanana, et je vois les discussions. Ok, on close pour un temps, on réouvre. » Et en fait, j'ai une archive géante de toutes les décisions produits qui ont été faites. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas besoin d'aller voir un gars et lui dire « Attends, mais pourquoi on fait ça comme ça ?» Parce que j'ai juste à recharger en GitHub et il y a eu une discussion. Et en fait, je trouve ça vraiment chambé. Et en gros, ça me rappelle en fait une idée de projet qu'on avait eue à l'époque avec Michael Lefrèvre, avec Stéphane Reverdy à l'époque qui était designer chez eFounder et Front, de pourquoi pas avoir une app GitHub mais qui soit orientée uniquement autour des conversations en fait finalement et qui soit pas du tout où tu supprimes toute la partie code en fait un petit peu quoi.
D'accord.
Et en fait, moi, à l'époque, quand on discutait de cette idée, je pense que je n'utilisais pas GitHub ou je ne comprenais pas très bien. Et en fait, là, le fait de voir GitHub en action, à ce moment-là, je me dis, mais en fait, c'est trop bien comme truc. Parce que Slack, c'est bien, mais les messages se perdent. C'est le bordel. Tu ne sais jamais qui doit bosser sur le truc. Enfin, voilà, ce n'est pas orienté pour produire des choses. C'est plus quelque chose pour discuter. Et Jira, c'est une horreur. C'est super long. Ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, en fait, t'as pas envie de l'utiliser quand t'es développeur, quoi. T'es habitué à plein d'autres outils. Et donc, en fait, bah, on commence à bosser. Alors, moi, mon pote Michael à l'époque était à Paris et on fait ça. On bosse quand on bossait sur un projet qui s'appelait Git Scout, qui était Mac, desktop Mac. Pourquoi desktop Mac? Parce qu'on kiffe les desktop Mac et que j'avais trop envie de designer une desktop Mac. Vraiment, c'est que ça. Mais j'avais grave envie de faire du Mac. J'adore le desktop Mac, je trouve ça chambé. Et en fait, on part un peu en tête en se disant tiens, on va fabriquer ça. Donc en fait, je commence à fabriquer ça en parallèle du boulot. On réalise une première version. Et en fait on a une traction plutôt assez bonne surtout qu'en fait on a des boîtes des mecs de Stripe, de Facebook qui commencent à nous utiliser, on a du feedback qui tombe dans tous les sens et là je discute un peu avec des gens autour de moi qui me disent attends mais mec faut que tu fasses un truc. Donc à ce moment-là, je me dis est-ce que je veux être CEO ? Est-ce que j'ai envie de construire une app ? Et en fait, ça commençait à devenir aussi un peu chaud en interne que je fasse du produit on the side. Bon voilà, ça se voyait okay. Clairement que j'étais plus trop focus aussi, je pense, que j'avais envie de faire ça.
En plus GitHub à l'époque ça appartient pas encore à Microsoft non sérieux,
je sais plus quand est-ce qu'ils ont racheté, je crois qu'ils, je sais plus, il me semble qu'ils les rachètent et je crois que je bossais encore chez Microsoft, je suis pas sûr.
Ok. Je pas vérifié.
Franchement je me rappelle mais c'est quand même pas, ça fait un peu de temps déjà qu'ils ont racheté, bon en fait ça fait un peu de temps déjà que j'ai fait ça et en fait et voilà quoi.
Donc du coup tu quittes Microsoft pour
je quitte Microsoft pour monter une app en considérant que Git Scout pour moi ça avait été à l'époque un peu ok il y a un truc à builder dans ce mode là le problème, le gros problème qu'on avait sur Git Scout, et alors l'app est toujours disponible mais elle est pas du tout maintenue, je pense qu'elle marche même plus actuellement, mais
tu sais que je suis allé sur GitHub du coup pour regarder pour un peu suivre le projet ouais. Hier en préparant et tout le monde est là genre s'il vous plaît ne killez pas l'app, s'il vous plaît refaites en sorte qu'elle soit dispo.
Non mais en vrai franchement c'était, en fait il y avait surtout, moi j'adorais bosser sur ce projet parce qu'on avait un peu un truc un peu hardcore, c'est que tous les matins, les lundis on se faisait une réunion, on regardait les feedbacks qui tombaient et on disait ok cette semaine on fait ça, et en fait ça faisait notre roadmap, on n'avait pas besoin okay. On était vraiment straight to the point. Ok, cette semaine, on fait un small achievement, on fait un changelog, on sort ça, on sort ça, on sort ça. Et donc, il y avait un côté vachement où on opérait assez rapidement. Et en fait, là, on a pu builder énormément de features super vite. Et on avait une communauté derrière aussi qui était là. Et donc, ça avait un côté super. Nous, juste ça, ça nous rendait kiffant, quoi, de voir des gens qui utilisaient le produit.
Mais du coup, pourquoi t'as pas continué?
Le problème, en fait, c'est que t'es super dépendant de l'API de GitHub, qui, malgré qu'on parle de GitHub, soit quand même une API bien pourrave, hein, pour ceux qui ont déjà bossé avec. Alors, peut-être qu'elle a évolué depuis, mais à l'époque, c'était une horreur. Enfin, je veux dire, ils t'annonçaient pas les changements.
Ok, super.
Je pense qu'en plus, honnêtement, on n'était pas la prio pour eux. On avait été un peu approché par GitHub à l'époque, mais c'était de manière un peu bizarre. Je pense qu'ils prenaient pas très bien l'idée qu'on redesigne leurs produits aussi, parce que c'était... Enfin, il y avait des trucs qui étaient mieux chez nous que chez eux, quoi. Donc, on était quand même deux mecs à faire ça sur le côté. Après, on a été trois, mais je veux dire, voilà, versus GitHub. Et en fait, le gros problème, c'est le problème de scale. Aussi, en parlant avec les fondeurs de Sunrise à l'époque, qui, eux, justement, étaient aussi basés sur l'API Google Cal. Et un de leurs regrets, entre guillemets, je pense qu'il n'y a pas trop de regrets, mais c'était aussi que la data, elle n'était pas chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, ils ont... La value de ta boîte et même toi, les features que tu peux développer, quand tu dois taper sur une API, à un moment, t'es limité. Et en fait, ça peut être une nice to have app que les gens vont payer, mais si tu peux pas créer. Enfin, on aurait pu potentiellement créer une boîte, c'est toujours une discussion qui existe encore entre nous des années après. On se dit, tiens, on aurait pu faire ça, on aurait pu faire ça, mais c'est vrai que sur le moment.
C'est un plafond de verre en fait.
Ouais, voilà. Si les gars décident de te shutdown à un moment donné en disant, ok, soit c'est fini, t'existes plus. Donc c'est quand même très dur de se dire, ok, tu vas builder un produit là-dessus. Bon, étant donné qu'il y a des gens qui auraient été peut-être prêts à payer, qu'on aurait pu être sustainable si tu veux, mais moi je suis aux US à ce moment-là, tu parles avec des mecs qui veulent investir aussi dans ton projet, donc on avait fait une micro levée de fonds à l'époque pour essayer de financer un peu nos idées. Et en fait aussi, il y avait un peu le collaborative editing qui arrivait, donc on a buildé deux produits à l'époque qui sont jamais vraiment sortis. On a eu des bêta users, mais c'est jamais sorti, qui étaient des espèces de un peu... On avait besoin d'un truc qui était basé sur Google Paper à l'époque et qui te permettait de faire la tâche. Et le moment où on allait release, il y a Notion qui a release. Et on a dit « Ah, je crois que je crois qu'il y en a qui ont la même idée que nous, mais ils sont allés un peu plus loin. » Donc à ce moment-là, j'avais un peu, moi, perdu espoir. Après, on avait bossé sur d'autres idées, mais en fait, ça a un peu cafouillé. Moi, à ce moment-là, j'avais grave envie de rentrer en Europe pour des raisons familiales. Et donc je suis rentré en France et après j'ai déménagé rapidement au Portugal et je pense que ça a un peu été aussi le clou de l'histoire. Moi je suis un gros j'adore, enfin je pense que le SaaS, les Américains, c'est quand même leur truc. Je dis pas qu'on peut pas faire de SaaS en Europe, mais c'est vrai que c'est quand même pas le même jeu. Et c'est vrai que pour moi, c'était impensable de pouvoir monter une boîte comme ça sans avoir des gens qui soient aux US, ou en tout cas et il n'y avait personne dans la team qui voulait aller aux US dans tous les cas, donc ça aurait été un peu compliqué. Et honnêtement, je pense que voilà, erreur de première boîte, premier funding, je n'ai pas très bien managé toute cette histoire. Et je pense que c'était un peu la fin de cette période, en tout cas, de moi dans le project management. Voilà.
Mais on va en reparler après, j'imagine.
On va en reparler après.
On va être de côté pour l'instant. Ce qui m'étonne encore plus par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est qu'après cette aventure, tu redeviens freelance.
Ouais.
Et tout à l'heure, tu me disais que quand tu étais freelance, le problème, c'est que tu ne vas pas jusqu'au bout du projet. Donc du coup, question tout simple, c'est qu'est-ce qui te donne envie de refaire du freelancing?
Alors, il y a plusieurs trucs. Je pense que j'avais aussi pris un... Entre Microsoft et derrière Fondateur, j'avais quand même pris un petit burn-out, honnêtement, dans la tête. Je pense que ça a été vraiment des années très, très... Enfin, je montais un projet en étant en parallèle designer. Ensuite, derrière, j'ai devenu CEO. C'est la première fois que j'avais ce rôle-là dans ma vie. J'avais aucune expérience. Et donc, le fait de terminer un projet où tu es à fond, hein, tu bosses tous les jours, t'as plus de vie perso quasiment... C'est vrai que j'avais un peu envie aussi de faire un break et en même temps aussi rentrer en Europe où j'ai un peu perdu contact aussi un peu avec tout le monde et je me rends pas trop compte de l'état de la scène. Moi, je suis en remote au Portugal. Tandis que ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, Sunrise, c'était une boîte remote. Ils avaient gardé ce truc-là même chez Microsoft. Et c'est vrai qu'en fait, il y avait des bureaux à New York, mais tu avais des bureaux à SF, tu avais des mecs en Chine, etc. Donc en fait, les grosses boîtes, c'est déjà un peu des boîtes remote, en fait, fondamentalement. Il y a pas, le mec qui est à côté de toi, c'est pas forcément le gars avec qui tu bosses tous les jours. Bon, c'est un peu le cas. Et en plus, il y avait GitHub à fond, donc en fait, si tu veux, bon. Et donc moi, j'étais un peu en mode remote believer. Je me dis, ouais, en fait, ouais, ça me saoule en fait d'être au bureau. Je comprends aussi les intérêts de pouvoir bosser de chez toi. Surtout, je pense sur des rôles un peu produits où, ok, t'as des catch-up, des meetings, mais c'est vrai que moi, ça peut m'arriver de me lever à 2 du mat. J'ai une idée. Tiens, c'est enfin la solution au design auquel je pense depuis 3 semaines. Et je vais pas m'empêcher de le faire. Donc, c'est vrai que t'as un peu ce rythme de travail des fois qui est un peu déconnecté. Même si j'essaie de moins le faire maintenant parce que j'ai une copine, mais c'est plus compliqué. Mais
à l'époque, c'était possible en tout cas.
Voilà. Où c'était possible, enfin, bref. Ou sinon, tu perds vite ta copine aussi. Mais bref, mais bon. Et en fait, ouais, il y a un peu de ça. Et donc, je pense que j'avais un peu envie aussi de. Le freelance, c'est une bonne manière aussi de trouver des boîtes. Et la plupart des boîtes, honnêtement, qui te contactent quand t'es free, elles ont un peu derrière la tête aussi de te recruter. Hein. Faut pas non plus se le cacher. Donc, tu peux un peu en jouer en disant, bon, ok, je sais pas trop où j'en suis. On bosse sur un projet ensemble et on voit. Mais ouais, j'étais un peu parti là-dedans. Ça a duré un an ou deux, je pense.
Ouais.
Et après, j'ai un pote de Microsoft, Bobby, qui m'a rappelé pour bosser sur un produit qui s'appelait Jour à l'époque, sur lequel il bossait.
Qui aujourd'hui s'appelle Alan Mind. Depuis
Alan Mind, exactement, ça a été racheté, ouais.
Et bah, du coup, tant mieux, merci pour la transition.
Ouais.
Tu fais quoi, du coup, chez Jour? Parce que je sais que tu as fait de l'illustration, mais tu viens en tant que... Enfin, t'es appelé pour faire quoi? Tu fais quoi là-bas?
Alors, il y a un des fondateurs qui est Bobby, qui est un pote à moi de Microsoft, un designer avec qui je bossais à l'époque, qui est un des fondateurs de l'équipe. Et à la base, ils viennent plus... En fait, à la base, on fait du freelance.
Okay.
Et en gros, Jour, c'est un hype de journal guided. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pour des gens qui veulent faire du journaling, mais qui savent pas trop comment s'y prendre. Donc en fait, t'as des espèces de petites aventures, ou en fait, en tout cas, des prompts qui vont arriver en leur disant, tiens, t'as fait quoi aujourd'hui? Comment tu te sens? Etc. Mais à chaque fois, ces prompts, ils sont orientés autour de questions, quoi. Et en gros, l'idée à la base, c'était, moi, pas forcément de faire beaucoup de produits pour eux, parce qu'il y a Bobby qui s'en occupait, mais c'était plus de dire comment on peut amener une couche, un univers un peu dans tout ça.
Okay.
Et du visuel, l'app a été très flat au départ. Ils savaient pas trop en fait comment on vend du journaling sur un iOS, quoi, tu vois. Donc là, on part sur un truc complètement consumer. Il y a un peu Calme qui existe déjà, qui est assez gros à l'époque, mais c'est pas vraiment la même chose. Ils font du journaling, mais ils vont pas très très loin là, par rapport à nous.
Puis ça fait un peu de méditation aussi, Calme.
C'est un peu méditation. Bon, on est dans tout la wellness, un peu des apps de wellness de l'époque. Et forcément, bah, si tu veux un peu attirer l'œil, faut être clivant et faut chercher aussi un univers. Et donc, en fait, on bosse en free. À la fin de la mission de freelance, on commence enfin à toucher quelque chose. Et en fait, on se touche sur un truc un peu ultra illustration heavy. Moi, j'étais super content, en fait, de plus faire de produit aussi un petit peu. C'était un peu un break dans le produit parce que...
Tu reviens un peu à tes premiers amours.
Je reviens un peu à mes premiers amours. J'installe Procreate sur iPad. Donc, en plus, je peux bosser dans un café où je veux. J'ai pas besoin d'avoir un ordi je peux bosser sur les chiottes comme je disais à tout le monde à l'époque. Non mais en vrai c'était génial parce que tu faisais un truc de wellness et c'était super illustratif et en fait bah, je pouvais sortir, aller dans des musées et en même temps créer des trucs. Enfin, c'était une expérience de travail super deep un peu parce qu'en fait c'était des sujets qui étaient quand même pas non plus toujours super simples en plus. Et dans lequel, en fait, une fois qu'on avait donné un univers, on pouvait un peu aller loin et il y avait des expériences assez poussées en termes d'illustration, etc. Donc moi, je prends un peu ce rôle-là. Je bosse toujours avec Bobby en produit. On fait des...
Ok, donc tu fais toujours un peu des deux, mais tu...
Je fais toujours un peu de deux. Après, je suis majoritairement sur l'illustration chez eux.
Ok.
Et je pense qu'il y a un bon fit avec l'équipe aussi à l'époque. Cette mission de freelance, elle nous a donné des bonnes bases de départ et en fait ils me proposent de join la team à l'époque pour qu'on bosse ensemble et je pense que eux de leur côté ils avaient besoin de moi en full time. Enfin, la brand et le design c'est vraiment partie du produit, les gens aimaient, les retours qu'on avait c'est que les gens adoraient le truc aussi, donc en fait t'avais un besoin de création de contenu énorme en fait de ce côté là il n'y avait pas l'IA encore à l'époque. Je pense qu'avec Midjourney j'aurais pas join la team. mais bref, mais en tout cas c'était assez cool et moi je pense que j'avais un peu besoin de revenir dans du consumer après du gros sas un peu dans tous les sens. Ça me faisait grave du bien et j'adore bosser avec Bobby donc c'était aussi cool quoi.
Mais t'es pas resté très longtemps en fait?
Non, je suis resté 8 mois, un truc comme ça.
Ok, on va en reparler. La première question que je voulais te poser, c'est vrai que les illustrations que tu as faites sont très parlantes, et du moins à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a encore quelques-unes dans le produit d'Alan, mais elles disparaissent.
Non, je pense qu'elles ont été enlevées. Hein.
Je sais pas, des fois, il y a deux, trois trucs.
Ah ouais.
Ouais. Je n'en dirai pas plus. Okay. Mais en tout cas, comme en préparant l'émission, j'ai lu l'article en fait, justement, de toutes ces préparations d'illustration. Comment tu t'y es pris ? Parce que c'est une chose de dire qu'il faut qu'on ait une image plutôt bold, un truc qui soit engagé, qui soit entre guillemets clivant, mais reconnaissable. Comment tu t'y es pris ?
Honnêtement, ça a été plusieurs mois de recherche. C'est ça qui était assez dingue avec ce projet que j'ai beaucoup apprécié, c'est que il y avait un peu un pacte entre nous et les fondeurs qui était tant qu'on n'a pas trouvé le truc qui nous paraît le mieux, on continue à rechercher.
C'est rare ça d'ailleurs.
C'est assez rare. Honnêtement, ça s'est un peu fait comme ça parce que je pense qu'il y avait une confiance mutuelle sur le projet. Et honnêtement, c'est ça aussi que moi qui m'a beaucoup intéressé sur ce projet, c'est qu'on a... Alors on avait une cible plutôt féminine aussi à la base. Et ce qui a un peu m'a fait un peu rentrer dans les milieux de la mode, regarder, enfin en fait sortir complètement de ce qu'on faisait dans la tech habituellement. Il fallait quelque chose qui dénote complètement de ce qui existait sur le marché aussi, et donc d'aller plus m'intéresser en fait à des illustrations un peu fantastiques, d'aller un peu voir des trucs qu'on faisait dans la mode principalement, d'aller rechercher un peu des, je sais pas si les gens connaissent le site It's Nice That, un truc un peu d'illustrateur super print un peu perché. D'aller un peu dans des trucs comme ça, et franchement il y a eu énormément de versions même des trucs qui ont été faites, mais l'idée c'était un peu de créer un univers qui soit unique, qui n'existe pas trop ailleurs, et en même temps qui puisse aussi représenter des idées un peu complexes. Donc il fallait forcément on est sur du mental, donc il y a des trucs des fois qui sont c'est beaucoup de métaphores, tu vois. Donc ça c'était super intéressant, et je pense que j'ai un peu embarqué aussi l'équipe là-dedans avec moi qui avait envie de faire des trucs à fond. J'ai refait de la peinture à l'époque parce que je voulais un peu j'avais trouvé plein d'idées que je trouvais cool.
C'est un peu le style que vous avez trouvé à la fin, non? C'était peu crayonné, un peu
avoir de la texture, travailler beaucoup sur la texture, avoir un univers avec des personnages qui soient réalistes sans être vraiment réalistes, qui n'aient pas de couleur de peau, enfin ils sont gris, tu vois. Il y avait plein de petits détails en fait qui se sont amenés au fur et à mesure. Et à chaque fois, c'était aussi, on trouvait une bonne direction de DA. Tiens, comment elle s'applique à ce truc-là? Non, ça marche pas, ça marche. Donc, il y avait aussi, sur chaque illustration, à trouver à chaque fois un concept. En fait, ça se rapportait beaucoup plus d'un illustrateur qui bosse pour des journaux,
okay,
tu vois, qui doit faire une illustration sur un article, que vraiment être que sur une feature, quoi. Donc, il y avait plein de trucs comme ça. Et il y avait surtout tout un langage dans l'app aussi écrit. Qui était fait par Alice à l'époque en content, donc il fallait aussi un peu faire les liens entre les deux. Donc c'était plus.
Tu bossais avec elle du coup ?
On bossait ensemble. En fait, c'était une petite équipe, on était 6-7. Hein,
Du coup, attends, je vais un peu plus loin. Du coup, comment tu travaillais avec la personne en charge du contenu pour. Comment ça se passait votre relation tous les deux pour. J'imagine vous nourrir, genre toi tu fais des illustrations, ça nourrit le contenu. Parce que les deux vont ensemble.
Alors le contenu il venait. Elle était quand même avec un background un peu psycho, etc. Donc c'est elle qui amenait quand même les directions et les sujets sur lesquels il fallait parler.
Okay.
Après, c'est vrai que moi j'avais une marge de manœuvre un peu d'amener sur la partie dont on allait splitter les questions et des fois intercaler les illustrations entre les deux, donner du rythme un peu à ça. Mais principalement, le contenu, il arrivait déjà d'eux. Moi, après, j'étais juste là pour l'amener et le rendre intéressant. Par contre, après, voilà, est-ce que tu connectes ça avec ça ? Il y avait des trucs un peu comme ça. Mais...
Trop intéressant. Et du coup, vu le sujet, vu la confiance que tu as eue, pourquoi tu ne restes que 8 mois chez...
Pour plein de raisons. Il y a eu des... honnêtement, en fait, le problème qu'il y a eu sur jour... Alors après, je ne me rends pas compte à quel point il y a des informations qu'on aura de parler ou pas, mais... C'est une app qui est sortie et il y a le Covid qui a frappé quand même pas très longtemps après.
Ouais.
Donc, grosse période d'incertitude au moment où eux devaient lever de l'argent. Et donc, je pense que ça s'est pas très bien passé cette levée à ce moment-là. Donc en fait, le deal qu'on avait commence à être remis un peu en question. Donc moi, à ce moment-là, je préfère prendre le large. Et je pense qu'honnêtement, le Covid a été un peu une période un peu bizarre pour tout le monde aussi, où tu bossais. Moi, je bossais à la maison. J'avais pas mal de potes qui bossent pas dans la tech, qui étaient un peu au chômage, etc.
Au chômage partiel, ouais.
Et toi, t'es chez toi à bosser alors que tu peux plus sortir. Enfin, je pense qu'on avait tous une côté perte de sens à ce moment-là. Et c'est vrai que j'avais peut-être plus trop envie de bosser là-dessus aussi, je pense.
Ok.
Ouais.
Tu ne le sais peut-être pas, mais Design Journeys est un podcast que je produis sur mon temps libre et de manière totalement indépendante. Alors si tu souhaites m'aider dans cette aventure, sache que j'ai ouvert une page KissKissBankBank sur laquelle tu peux faire un don pour soutenir l'émission. Cela m'aidera à payer les frais d'hébergement du podcast, du site internet, mais également à préparer de nouveaux projets que j'ai en tête depuis un petit moment. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description. Allez, maintenant je te laisse avec la suite de l'épisode.
À quel moment du coup tu rejoins Linéaire? Parce que c'est un petit peu temps après. Il se passait quoi déjà entre temps? Parce que entre mai et septembre et après...
Honnêtement, j'ai fait un peu de tri entre les deux.
Ouais.
J'avais des trucs à finir pour jour aussi. Enfin, c'était, j'ai terminé chez eux, mais je pense qu'on a rebossé un petit peu ensemble quelques fois derrière. Et en fait, pour la petite histoire, moi j'avais déjà rencontré un des fondateurs de Linéa. On avait fait, en fait, pour GeekScoot, on avait été invité par Slack à San Francisco à faire un talk à l'époque sur les Mac apps. Et c'était ce mec-là qui organisait ce truc-là, un jury, un des fondateurs. Et qui lui faisait une app de finance à l'époque, aucun rapport. C'était un mec qui faisait chez Coinbase. Et on était rentré en contact un petit peu, mais on avait un peu perdu. On s'était un peu perdu de vue. Et en fait, out of the blue, ils nous ont envoyé un mail en fait, sur LinkedIn à moi et les deux mecs de la team de GeekScoot, Mickaël et Jérém, en disant voilà, en gros, on est en train de créer ce produit-là. On a été inspiré en tout cas un petit peu par ce que vous avez fait sur GeekScoot à l'époque. En tout cas, on trouve qu'il y a un lien entre les deux. Est-ce que ça vous dirait de discuter pour voir si vous êtes intéressé de join ou pas à l'aventure? Et ça a été assez marrant entre guillemets. Donc il y a un process de recrutement chez Linéaire où tu dois bosser une semaine avec eux en freelance et tu vois à la fin de la semaine si ça t'intéresse ou pas.
Okay.
Tandis qu'à l'époque il y avait on était 4 quoi, enfin il y avait 4 personnes chez Linéaire ou 5 tu vois. Bref, et en fait je fais un call avec eux. Moi j'arrive aussi avec le background, putain, j'ai essayé de monter une app là-dedans, ça m'a tué 2 ans de ma vie, 3 ans de ma vie, est-ce que je suis prêt à retourner là-dedans? Donc j'y vais un peu à reculons honnêtement à ce challenge design. Et en fait, j'ai une super expérience avec eux, des grosses discussions. Ils m'ont surpris énormément sur la stratégie qu'ils avaient, sur la manière. Enfin, moi, j'avais beaucoup de questions en fait, en me disant, mais attendez, comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Comment on va faire ça?
Ouais, lié un peu à ce que tu avais vécu avant.
Exactement, parce qu'on s'est posé les mêmes questions, en fait, qu'eux. Et moi, en plus, je sais un peu d'autres. Quels sont les produits en ce moment qui essayent un peu d'aller sur ce marché-là aussi, ou les produits, enfin, en fait, je comprends très bien la problématique qu'ils ont aussi, et ils savent que je comprends très bien cette problématique. Donc, on a une vraie discussion au-delà du challenge design que je fais avec eux. Carrie, qui est le fondateur de l'OCO, qui est un designer aussi.
Ça aide,
très gros designer en plus, donc ça rigole pas trop. Et moi, il y avait aussi un truc, alors un peu perso, c'est toujours un côté un peu. Il y a toujours un truc dans les projets que j'aime bien qui n'est pas forcément un truc logique et business, mais c'est des Finlandais, les trois. Et il y avait un peu dans ma tête un dream de. Le design nordique, quoi, tu vois. C'est le truc où tout le monde se dit c'est quoi le design nordique? Enfin, il y a Ikea, des trucs comme ça. Enfin, on a tous, je pense, un inconscient sur le design nordique.
Du bois, du blanc très épuré partout.
Ouais, voilà, tu vois, des trucs mais qui veut rien dire, mais Volvo, quoi, tu vois. Tu te dis, putain, c'est quoi ce truc? Et en fait, il y a un côté un peu intriguant chez moi qui me dit, ces mecs-là, ils font quand même des trucs chauds en design. C'est quand même des références, comme dans le monde entier, tu vois. Et... ça serait quand même marrant d'apprendre, et je le sens dans la philosophie de la boîte qu'il y a ce côté nordique qui est très très très, très présent, et donc il y a un côté curieux de chez moi aussi qui me dit tiens, en fait c'est marrant, je connais pas du tout la manière de bosser de ces mecs là moi je bosse beaucoup avec des Français ou des Américains, mais je connais pas trop la manière de bosser avec ces mecs là et ça pourrait être intéressant en termes d'expérience au-delà du projet. C'est le côté excitant qui m'avait donné un peu aussi dans l'envie de venir, et surtout j'ai été super impressionné par leur vision, par la manière d'exécuter les choses. Qui pour moi est très très bonne. Donc je me dis à ce moment-là, ok, il y a une full confiance, il y a un gros été de réflexion avec moi-même, est-ce que je veux rejoindre en full-time une boîte sur du project management. Ça a été vraiment des grandes grandes discussions avec ma copine à l'époque. On était parti en vacances, bref. Et en fait, ouais, à la fin, je me dis, ok, let's go.
All in,
quoi. C'est parti.
Trop bien. Du coup, tu rejoins avec tes potes ou tu rejoins tout seul? Ils te suivent ou toi, tu...
Ils ont pas été pris.
Ah, voilà. Allez, comment je vais revenir là-dessus? Allez, donc tu arrives quoi? T'es 4e, 5e de la boîte, c'est ça?
Je crois que je suis 5e, ouais.
tu définirais ton rôle comment? Parce que quand je regarde sur ton site, t'es product designer. Quand je regarde sur ton LinkedIn, t'es founding designer.
Alors, founding designer, c'est vrai que c'est un truc. Moi, je pourrais mettre founding designer. Bon, je pense que le mot founding designer, il a été utilisé parce que je suis un des. Enfin, on a. Au moment où j'arrive, il y a une première version de l'app qui a été designée par Carré, une direction visuelle. Carré est CEO d'une boîte. Il n'a pas pu rester en design très très longtemps. Donc, en fait. L'idée, c'est que moi, j'avais une base de travail et qu'après, je fasse l'expansion de tout ce produit-là et qu'on commence à développer les grosses features du produit, à donner la direction générale de comment tout ça allait évoluer. Donc, c'est pour ça qu'ils ont défini un peu mon rôle en founding design parce que je suis celui qui a un peu mis les bases de comment on allait bosser en termes de design chez eux et la direction qu'on allait prendre sur la UI, la UX. Même si ça a toujours été des grosses discussions avec Carré pendant la première année, on n'était que tous les deux. Et ça a été beaucoup de discussions entre lui et moi. Je pense qu'il avait besoin de moi pour ça aussi, pour un peu amener qu'est-ce qu'on va construire comme écosystème, comment ça va fonctionner Linear, comment on parle avec Linear. Donc d'itérer à deux aussi, des fois, où quand tu es designer solo, c'est un peu compliqué. Surtout avec. Ils avaient clairement annoncé à tout le monde qu'ils voulaient faire quelque chose d'intéressant en termes de design et que ça soit un peu novateur. Donc, il fallait aussi un peu avoir des ressources pour le faire, quoi.
On va en parler. Je veux juste pour bien comprendre. Aujourd'hui, du coup, il me semble que vous êtes trois au design maintenant, c'est ça, sur une cinquantaine de personnes?
Alors, on est plus. On a Alex Cornell qui est sur la partie mobile. Donc, il n'y a pas d'app. Soon, guys. Je sais que c'est la plus grosse request qu'on a. Donc, s'il y a des gens qui écoutent et qui utilisent. Je sais qu'ils m'ont demandé.
Est-ce que l'app sera sortie quand l'épisode sortira?
Je ne peux pas me prononcer sur ce sujet.
Très bien.
J'espère. Non. Mais donc on a quelqu'un en mobile, en full time. Maintenant, on a recruté un designer sur la partie US. En gros, la team est split aussi US-Europe.
D'accord.
On a des gens sur les deux continents. Et pour les gens qui ont bossé avec des gens qui sont basés aux US ou des gens qui étaient aux US qui ont bossé avec des gens en Europe, c'est quand même très compliqué sur les time zones pour faire du produit. Donc ça a été par exemple un des exemples que j'ai appris de jeu. Par exemple, jour on n'avait pas de team US, de team Europe, il y avait les fondeurs aux US et les autres en Europe. C'est pas, tu vois, c'est en termes de travail, déjà t'apprends avec ton expérience aussi à te dire ok, moi je veux bien rejoindre notre équipe, mais c'est comment ça marche, le CTO est en Europe, ils sont Europe based principalement, même en fait en termes de headcount, je pense. Ouais, ça va être 50-50, mais il y a beaucoup d'Européens à un moment donné. Ils sont remote first et donc j'ai oublié ta question.
Combien vous êtes au design?
Combien on est design, pardon. Ouais, et donc on est 5 actuellement. Si on compte Carré, bon, je compte pas Carré, on est 4 et il y aura un cinquième élément, un Français qui va arriver bientôt dans l'équipe. Je ne peux pas encore.
Je ne peux pas en dire plus. C'est toi qui manage l'équipe?
Non.
Non? C'est Carré du coup? Ou c'est vous êtes un peu de manière organique?
Carré qui prend les final words sur les designs, mais il n'y a pas vraiment de management sur le design.
Ok, du coup, comment vous êtes organisé? Là, tu as un peu dit qui sur quoi? D'ailleurs, toi, tu bosses sur quoi du coup?
Moi, je bosse sur le produit maintenant. Je fais que le produit.
Ok, mais.
J'ai du web et du produit au début, là, je fais que le produit. Desktop.
Ok, très bien. Et du coup, les tâches sont réparties, j'ai l'impression, plus ou moins en squad. C'est quoi vos méthodes de travail, vos rituels? Parce que si tu bosses sur le produit, tu bosses sur le mobile et tout, comment vous faites pour communiquer entre vous, pour vous assurer que tout fonctionne bien?
Ça, c'est des challenges qu'on a au quotidien, parce qu'honnêtement, la team, elle a beaucoup grossi. Là, tu disais, on est 50, mais on n'a pas démarré à 50. Donc, c'est vrai que maintenant, on a des nouveaux challenges par rapport à ça. C'est un peu les gros sujets qui sont sur la table actuellement chez nous. Mais en gros, la manière dont on bosse, c'est que déjà, on recrute beaucoup d'ingénieurs qui kiffent le design aussi, donc qui ont un œil produit. C'est-à-dire qu'en gros, on ne considère pas qu'il y a une team produit et qu'il y a une team ingénieur. Les ingénieurs font des trucs d'ingénieurs des fois, les designers font des trucs de designers. Mais en gros, la plupart des leads sur les projets sont des ingénieurs. Donc, c'est eux qui handle la feature.
Ok.
Et donc, moi, je bosse pour les ingénieurs ou avec les ingénieurs. Mais mon rôle de design, en fait, il est plus de faire de la R&D, quoi. C'est-à-dire que je pense que 90% de mon boulot est fini à la poubelle. Mais en gros...
C'est pas trop frustrant?
C'est le minimum qu'il faut avoir pour faire du bon design, je pense. Si tu mets pas 90% de tes failles à la poubelle, c'est que tu peux faire mieux encore. Mais en gros, pour dire ça, c'est-à-dire qu'en fait... Il y a plein de choses que les ingés peuvent faire eux-mêmes. Et après, moi, je peux intervenir derrière en disant, OK, en fait, bon, maintenant que tu as un premier prototype qui fonctionne, moi, en fait, je ferais ça comme ça, comme ça, comme ça. Et tu as des features qui sont plus grosses où là, en fait, tu as besoin de visuels en amont pour un peu dire, OK, vers où on va aller, tu vois.
Ah ouais, donc ça veut dire que soit vous avez un peu, on va dire, le classique où c'est plutôt le produit, le design qui valide l'idée, un peu ce à quoi ça ressemblait, comment ça va fonctionner. Mais des fois, tu as des devs qui viennent, qui te montrent et c'est toi qui réorganise par-dessus.
Ouais, ça, on est, en fait, en gros, si tu veux, moi, il y a la manière dont moi, je bosse beaucoup avec des screenshots de l'app que je prends et après, je rajoute des trucs par-dessus. C'est-à-dire, pour moi, ce qui compte, c'est ce qu'il y a en prod. Genre, ouais. J'adore les design systems et tout, c'est sympa, tout ça, c'est cool.
On va en parler juste après.
mais moi, en fait, j'ai pas le temps de faire ça. Et en fait, au final, l'utilisateur, ce qu'il voit, c'est ce qui est sur son écran, quoi. Le background story de comment ça existe, il en a rien à carrer.
Ouais.
Donc, en gros, la manière de shipper. Alors après, il faut prendre au compte chez Linear, c'est qu'on est sur des outils où il y a énormément de données. Un utilisateur moyen, je sais pas, il a peut-être 3000 issues, 4000 issues. Enfin, donc si tu peux t'amuser à designer pendant 3 heures une liste d'issues avec des titres différents, des labels, etc., etc. Mais en fait, ce que tu vois toi dans ton design versus la vérité que les utilisateurs vont voir, des fois elle est très éloignée juste à cause de la donnée
qui
va être display. Et c'est une app aussi sur laquelle tu interagis, il y a du live, tu cliques sur des choses, ça repart, ça revient, tu changes beaucoup de contexte assez rapidement. Donc en fait, il y a le design, c'est très cool, mais c'est vrai que la partie, à un moment donné, ça existe vraiment et c'est live, c'est souvent une grosse lag pour nous. En fait, on se rend compte que ça marche pas trop, quoi, parce qu'en fait, il y a plein de problèmes, il y a énormément de edge cases, tout est interconnecté dans l'app, donc en fait, tu implémentes une donnée quelque part, elle va ressortir de l'autre côté de telle manière. Et donc, c'est très très dur pour nous de dire, OK, ce design est parfait, on va le shipper. Tant qu'il n'a pas été implémenté, même de manière un peu dégoûte.
C'est intéressant.
Donc, on est obligé de faire un peu de testing. Et en fait, la plupart du temps, des fois, sur des petits détails du UI, en fait, qui sont très importants, qui font que l'app peut être plus intéressante, mais tu as besoin quand même de sentir déjà est-ce que cette donnée, elle est intéressante dans ce contexte-là ou pas. Est-ce qu'elle est... Tu as besoin d'avoir ce ressenti utilisateur. Et donc, c'est vrai que parfois, le design, ça peut te permettre de comprendre ça rapidement parce que tu vas vite sketcher et tu vas te rendre compte, OK, ça marche pas du tout. Par contre, des fois, il y a des fois où, en fait, t'as envie de le tester. Et donc, moi, je préfère bosser par rapport à me disant, OK, ma prod actuellement, c'est ça et je rajoute ça dans ce qui est en prod versus des fois avoir un Figma file où des trucs ont été modifiés entre temps, qui ont updaté. Donc, en fait, moi, le design que le truc sur lequel je design, des fois, c'est pas 100% accurate par rapport à ce qui est en prod. Et on fait des changelogs une fois par semaine. Hein. Donc, on ship aussi énormément de features. C'est aussi, on est dans cette philosophie de vouloir shipper vite beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ship qui sont des fois un peu broken. Et l'idée, c'est que si elles sont broken, c'est les gens qui vont les découvrir. Et donc, il faut le fixer vite. Donc, en fait, on itère très, très vite. Et en fait, l'itération pour nous, elle se fait dans le produit. Elle se fait pas sur ce que dans le Figma, quoi.
Okay. Juste pour mettre dans le contexte, ouais. T'as le droit de dire combien il y a d'utilisateurs sur Linear ou en tout cas donner une
Je sais. Le nombre d'utilisateurs, on doit être... Je sais pas.
C'est plus pour savoir si on est de l'ordre du 10 000 ou du 100
000. En termes de team, ouais, largement. D'organisation en soi.
Okay.
Donc ouais, il y a beaucoup plus que 10 000 utilisateurs.
Ok, donc du coup, t'as moyen d'avoir du retour vite.
Ah bah alors, et... ouais. Donc ça, c'est un peu à la Git Scout qu'on a, on a un customer support qui est tout le temps sous la flotte. parce qu'on a, en fait, on faut savoir aussi qu'on build un tools pour les ingénieurs.
Oui.
Donc qui est quand même une catégorie d'utilisateurs très particulière. Donc faut aimer ou faut pas aimer. Moi j'adore, mais il y a beaucoup qui c'est des utilisateurs exigeants qui savent très bien ce que c'est du code. Donc quand tu peux pas leur dire le bouton il est rouge, désolé, ils savent que du CSS c'est une ligne quoi. Donc c'est des gens qui sont très exigeants sur les produits qu'ils utilisent, mais en même temps c'est nos meilleurs advocates. C'est-à-dire c'est les mecs qui font que le produit il est connu parce que les développeurs quand ils aiment bien un truc ils le disent, ils veulent bosser avec. Donc, pour spread au sein des teams, c'est aussi des super users à avoir. Et donc, ouais, on a un retour super des users en permanence. Dès qu'il y a un truc qui sort, les gens, ils testent. On a des programmes, on a des bêta programmes aussi avec certains de nos utilisateurs un peu privilégiés qui testent en amont des choses.
Donc, ce qui fait que y a pas vraiment besoin de rechercher vous. Vous avez la data, vous avez suffisamment de data pour avancer, vous avez suffisamment de retours utilisateurs, ouais, pour avancer. Et vous avez
c'est
tout...
ça. Et on incentive énormément les users à nous faire des retours. C'est-à-dire qu'on leur répond très vite, on leur remercie, même si c'est des retours un peu violents des fois. Voilà. on va quand même leur dire merci beaucoup pour votre retour.
Ouais.
Donc les gens, ils sont assez vocaux à ce niveau-là. Et c'est ça qu'on veut en vrai en même temps. Et en fait, on n'a pas de QA aussi. Donc ce qu'on considère, c'est que l'Est teste une prod, quoi.
Waouh.
Non,
c'est audacieux, ça.
on teste. Honnêtement, c'est ça aussi qui responsabilise toute l'équipe à être sûr que quand tu ships un truc, ça soit bien fait. Alors,
tester, c'est douter.
Non, mais ouais. Non, mais c'est bon. Après, on est aussi utilisateur de notre propre produit, donc malheureusement, non, on a des teams de plusieurs milliers de personnes qui on n'est pas du tout à la même taille d'usage du produit. Mais en gros, on a des release plans sur certaines de nos features où on se rend compte assez vite s'il y a un problème. Il y a des problèmes comme partout. Le but, c'est de se dire, je pense que c'est un peu une philosophie d'équipe aussi, de se dire, s'il y a un petit bug, tout le monde s'arrête de bosser, on le fixe, quoi. Donc en gros, on essaye de laisser traîner le moins de choses possible en ligne qui ne marche pas, quoi. C'est pas là du tout la philosophie d'équipe.
Ok, très bien. Si je reviens un tout petit peu en arrière, du coup, ça veut dire que toi, tu fais des screenshots, tu design et après tu vas avec les devs, vous faites ça en prod où ils développent le truc à côté de toi et toi, tu vois au fur et à mesure ton design évoluer.
Ouais. C'est principalement comme ça qu'on développe, ouais.
Wow. Et donc du coup, tu l'as abordé, donc autant en parler tout de suite, le design system. Je sais que toi, j'ai ressorti un petit tweet de toi qui disait que les design systems, ça... Alors attends, c'est quoi ? Ça nuit à la créativité. Faites-moi changer d'avis. Je veux bien déjà que tu nous partages ton avis parce que t'es clairement à l'opposé de toutes les personnes que je reçois dans le podcast.
Bon, alors c'est un petit peu aussi sur Twitter, il faut faire du buzz. Hein, donc il fallait un peu provoquer, mais honnêtement, moi, c'est un truc qui me. En fait, ça part de plusieurs choses. Ce truc-là, c'est que on vient de passer par une phase de recrutement de designer assez longue. J'ai fait beaucoup de reviews de folios de gens. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens qui me présentaient des design systems. Et moi, j'ai jamais été fan juste de faire des design systems. J'en ai déjà fait quand je bossais chez Outlook, j'ai fait des design systems Android, etc. J'avoue que c'est pas un truc qui m'excite personnellement non plus que ça. Par contre, je sais très bien à quoi ça sert et je vois très bien comment ça peut marcher. Après, je pense que le problème, c'est qu'actuellement, on perd notre côté designer dans la manière de faire nos design systems. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le monde fait la même chose partout. Alors que je pense qu'un design system, on a un design system chez nous, mais qui est très basique. Parce qu'on considère que, en fait, l'app actuellement, ça se trouve, dans 3 mois, elle ressemble pas du tout à ça. Et parce qu'on est encore une startup early chez nous, même si on a beaucoup d'utilisateurs, on est loin d'avoir gagné face à des concurrents beaucoup plus gros que nous. Donc, on considère qu'on n'a pas encore craqué le truc à 100%. Ce qui fait que demain matin, en fait, on peut se réaliser que ce truc-là, ça marche pas du tout et qu'on va tout péter. Et donc, rajouter du temps humain pour construire un design system de quelque chose qu'on est capable de péter dans une semaine,
okay. Ça
paraît chez nous un investissement qui est pas du tout worth it. Et en plus de ça, le problème quand tu designs avec un design system, c'est que tu utilises les composants que toi, tu as créés dans ton design system. Donc, en fait, tu t'amènes des contraintes directement. Et qui sont pas toujours justifiés, c'est-à-dire que je comprends le fait d'avoir quelque chose de cohérent dans ton visuel, mais ça tu dois un peu naturellement en tant que designer aussi le voir, mais tu dois aussi être capable en tant que designer de le faire évoluer, de dire tiens en fait ça c'est la base de départ qu'on a, mais d'un coup on évolue vers ça, et parce que mine de rien les gens ils aiment bien ça aussi, enfin quand t'as une mise à jour de ton iOS et que tes boutons ils ont changé, tu trouves ça cool quoi, en fait t'as l'impression que c'est refresh alors que c'est le même produit que tu utilises depuis 10 ans. Donc, il ne faut pas non plus avoir peur de redesigner son app et de l'amener et d'avoir quelque chose un peu flexible. Et moi, je pense que quand je vois des designers qui sont un peu au démarrage de leur carrière et qui passent des semaines en full time à designer des design systems et qui n'ont pas encore peut-être des skills UI très bonnes ou qui ont encore des choses à ajuster dans la manière de bosser, j'ai envie de leur dire focus sur autre chose, mec, parce que meuf, tu vois, mais ou qui tu veux, mais. Honnêtement, de pas justement être trop focalisé là-dessus parce que honnêtement le user va jamais le voir quoi et c'est ça le problème. Alors après quand tu bosses chez Airbnb et que t'as 300 designers, bien sûr que t'as une team pour faire ça, qu'il faut bouger, merger des écrans entiers de plein de plateformes et donc t'as des design system team etc. Donc ça je comprends très bien que ça existe, je vois très bien pourquoi ça existe.
Okay.
Mais que des fois des organisations s'amusent à créer des design systems ou font des design systems parce qu'ils ont vu que le mec de Spotify il a fait un design system et qu'ils sont pas Spotify, je me dis toujours mais attends, est-ce que tu peux pas interroger un peu plus ton problème et te dire, ok, est-ce que j'ai pas besoin d'avoir juste peut-être mes boutons et trois couleurs dans mon Figma? Est-ce que ça peut me suffit pas déjà à designer ce que j'ai besoin de faire? Est-ce que j'ai besoin d'avoir déjà 40 composants en bataille qui vont d'un coup, quand je change la couleur de ça, ça change de couleur partout? Est-ce que ça va vraiment t'aider à solver les problèmes de design que t'as au quotidien? Je sais pas, en fait. Okay. J'ai l'impression que c'est un faux, que c'est un peu mettre les problèmes sous le tapis des fois et se dire, ok, j'ai un design system super propre. Ouais, mais est-ce que ton produit, il marche, quoi? Et est-ce que le design aussi, c'est le mec qui va review le produit en prod toute la journée, se rendre compte qu'il y a des petits problèmes, des fois du high, faire du feedback aux ingénieurs. Ce qui compte, c'est le produit en prod. Donc, si le design system permet d'avoir un produit en prod super clean, mais let's go design system. Mais je pense que quand j'ouvre un design system et que je suis obligé de détacher tous les composants avant de pouvoir accéder à modifier quelque chose, est-ce que ça te permet de designer plus vite? C'est la question que je me pose vraiment sincèrement, quoi.
Ok, donc toi aujourd'hui, chez Linear, c'est quoi? Vous avez, j'imagine, un ou deux boutons vite fait et puis et c'est tout. Et après, vous gérez tout le reste au fur et à mesure. Et le jour où vous serez beaucoup, faudra plus penser, mais...
Non, mais honnêtement, c'est un truc, c'est un sujet qui est sur la table en permanence. On se dit, ok, ça m'est arrivé l'an dernier. Je me suis rendu compte que je réutilisais beaucoup de fois des trucs. Je les ai ajoutés dans. J'ai extrait les UI que j'avais designé à l'époque et que j'ai mises. Mais même, tu vois, ces UI-là, c'est une base, mais elles ont déjà été modifiées depuis parce qu'on fait beaucoup de changements en permanence.
Ouais, d'où le fait d'aller directement en prod, récupérer sur la chat et les faire évoluer.
Je pense que sur la moitié des problèmes que je résous en tant que designer, des fois c'est ça. En fait, c'est on se rend compte que le message, le unread state, il est pas très bon. Je vais pas m'amuser à rapporter tous mes composants. Je vais prendre un screenshot du truc et je vais redesigner juste le truc qui modifie. Des fois, c'est enlever une couleur et en changer une. Ça me prend 30 secondes sur un screenshot. Ça va me prendre 20 minutes sur un design system. Donc c'est juste une grande question de temps aussi, honnêtement.
Ouais, du coup, aller vite et puis un jour, quand ça deviendra le bordel et que ça deviendra plus compliqué de maintenir ce qui existe déjà que de...
Bah si on peut un jour juste tirer de la prod et le mettre, prendre la sync la prod en fait et le mettre dans un Figma, ouais, mais pas l'inverse, quoi.
Un jour peut-être.
Un jour peut-être.
Bon, il y a un sujet que je voudrais aborder avec toi.
Vas-y.
Qui est assez simple parce que c'est surtout pour ça que Linear est connu auprès des designers, c'est que quand vous avez sorti votre homepage il y a un an, c'est devenu genre le truc. Tout le monde vous a copié depuis. Est-ce que tu peux m'expliquer comment vous faites pour atteindre un tel niveau de détail et un tel niveau de qualité au niveau du design qui fait qu'en fait, à la fin, on parle de vous pour votre produit, on parle de vous pour votre qualité, on voit que vous êtes différent des autres, vous devenez une source d'inspiration et tous les sites se ressemblent maintenant. Comment?
Bah déjà, c'est un peu le brief de départ. C'est-à-dire, il faut qu'on fasse un truc que tout le monde a envie de copier, quoi. C'était l'idée qu'on s'est donnée.
Bien joué.
Parce qu'en fait, franchement, on est un peu la preuve aussi que des designers peuvent faire parler de leurs produits, quoi. C'est vrai qu'au final, l'une des communautés les plus actives autour de Linear actuellement, c'est la communauté design, quoi. On sort un nouveau truc, on a plein de partages, etc., etc. Donc en fait, c'est un peu un PR aussi qu'on utilise. C'est-à-dire qu'en fait, le design, c'est aussi quelque chose que les gens aiment. On fait aussi un produit qui est fait pour faire des meilleurs produits. C'est un peu la philosophie qu'on a derrière. Donc en fait, on est un peu obligé d'être intransigeant sur cette partie-là. Donc on a fait le choix dès le début aussi d'avoir des pages en mode dark mode. C'était un peu aussi... c'était un peu un truc qui venait un peu frapper de côté un peu les sites SaaS qu'on voyait à l'époque. Et aussi un truc, je pense, qu'on n'aimait pas trop, c'était un peu les sites SaaS avec les gros bonhommes qui bougent des barres charts partout, etc. Et qu'en fait, c'était quand même les sites SaaS, si on s'en rappelle, il y a 2-3 ans, c'était quand même Disneyland, quoi. Il y avait des couleurs dans tous les sens, etc. Et ça devenait un peu trop Disneyland pour les Nordiques. Donc, je rigole. Mais non, mais en gros, l'idée, c'était de dire aussi, on fait des outils pro. Et est-ce qu'on peut pardonner un peu des lettres de noblesse à l'outil pro, quoi? Et en fait, c'est quoi l'outil pro? C'est un truc qui est un peu précis, qui va vite, que tu as envie d'utiliser, qui te rend plus efficient. Et donc, il y avait un peu ce côté, comment on transmet ça dans un website. Encore une fois aussi, notre public cible à la base, c'était aussi les ingénieurs. Donc aussi faire un site qui plaît à un monde des ingénieurs, beaucoup d'influence du jeu vidéo aussi, un peu dans ce qu'on avait fait dans les couleurs, dans les effets un peu qu'on utilisait à une époque. Donc c'était aussi comprendre complètement notre cible. Et je pense qu'il y a plein de de problème, c'est qu'il y a des gens qui copient en fait d'autres sites, et mais qui se rendent pas compte à quel point le site en fait il doit parler à ta cible. Et nous, notre cible, c'était des designers, des ingénieurs, et il fallait que ça leur plaise. Donc en gros, on a été le maximum où on aurait pu aller sur un site comme ça. Ça veut pas dire que si demain t'as une boîte qui vend du parquet, il faut faire un site linéaire. Et c'est ça le problème aussi, c'est que je pense qu'il y a plein de mecs qui vont pas assez à fond dans leur landing. Mais si tu t'unlock un peu la pression de te dire, mais attends, lui il a fait comme ça, faut que je fasse comme ça. Non, lui, c'est pas les mêmes problèmes que toi. Donc
oui, il faut d'abord comprendre le problème, voilà. Du pourquoi, du comment.
Et... comprends à qui tu parles. Et aussi, bah, on est une boîte fondée par un designer aussi. Oui. Donc, on a aussi il a une compréhension de lui. Il sait très bien où est-ce que ça peut aller. Et bon, il faut aussi savoir vendre ses discours en interne. Des fois, c'est pas simple.
Ouais, parce que j'allais te dire, t'as beau connaître les besoins de tes utilisateurs ou en tout cas comment ils pensent. Tu peux dire. Tu peux arriver avec la présentation la plus léchée qui soit. Je veux dire, votre site, il y a quand même tout un travail dessus, de l'animation, de comment c'est mis en avant. Et je sais qu'il y a beaucoup de boîtes où quand tu arrives et tu dis voilà l'interface, voilà les animes, et tout le monde te dit les animes, on s'en fout, c'est pour plus tard. Et ouais. En fait, plus tard, c'est jamais. Or que là, sur le site de Linéaire, tu as des transitions de fou, tu as des petits jeux de lumière. Enfin, je veux dire, tu as un petit côté.
Alors, c'est un game un peu aussi qu'on a upgrade. Les premières versions de site, c'était les ingénieurs de la team produit qui faisaient aussi. C'était un peu un extra qu'on se faisait pour se marrer à côté du boulot. Et là, maintenant, on a aussi Paco qui est en full time sur ce sujet-là. Donc, on a un intégrateur, un développeur, front-end. Qui est que quasiment pour la partie website. Enfin, qui fait quasiment que ça.
Okay.
Donc, aussi, c'est. En fait, on a. La première version même du site qu'on avait avant la landing de l'an dernier, qui marchait déjà pas mal, qui commençait déjà à être un peu copié. Donc en fait, on a sorti quand même quelques sites entre-temps avant cette version-là. Enfin, pas sur la landing, mais sur d'autres sites annexes, sur lesquels j'avais pas mal bossé surtout. Et en fait, on a commencé à comprendre aussi qu'il y avait de l'attraction. C'est que c'est des bons produits marketing pour nous. On se rend compte que, bah, en fait, donner de l'extra mile sur une landing, c'est-à-dire prendre une semaine de boulot dessus, en fait, t'avais d'un seul coup... l'animation, tout le monde en parlait, personne parlait du contenu des fois, mais les gens ils partagent quand même la landing. Et en fait, c'était ça aussi le truc, c'est qu'en fait l'idée c'était aussi d'avoir toujours un élément un peu viral ou un truc un peu que t'as pas vu avant, parce que en fait sur nous ça a un impact business énorme, c'est à dire qu'en fait une landing de Linéaire, ça nous rapporte énormément d'utilisateurs, de nouveaux utilisateurs. Donc c'est un truc dans lequel on investit aussi, parce que on sait que stratégiquement ça a une valeur business derrière. Donc voilà.
Et du coup, comment vous faites ça pour le vendre en interne, en fait, pour que toutes les personnes qui n'aient pas une appétence particulière pour le design se disent c'est pas un kiff de designer, c'est vraiment
mais
quelque
si,
chose.
Si tu peux pas bosser chez Linéaire si t'as pas.
C'est vrai.
Ça passe. Non, c'est impossible.
Donc tout le monde est ok sur. Enfin, tout le monde est.
Ouais.
Je veux dire, à l'entrée, t'as un test sur le design et si c'est.
Tous les ingénieurs qui bossent chez nous, je fais passer. Enfin, on a justement donc cette semaine de boulot en collaboration avec les gens qui viennent chez nous. Pour la partie Europe, je suis là toutes les semaines et l'idée c'est d'avoir une discussion très open sur le produit et la manière dont ils perçoivent le produit et le design en général.
Et si on étend un peu plus à toute la boîte, genre le marketing, la communication, le customer success, ou le customer support, bref, eux aussi,
C'est un truc, c'est une ADN qu'on veut vraiment garder en interne, de au moins care un minimum de ça. Mais tu vas bosser dans une boîte comme Apple, ils sont tous comme ça les mecs, et donc si Apple peut le faire, tu peux le faire.
Ouais, non mais ça j'en doute pas, mais du coup comment vous faites pour repérer ça, parce que je veux dire...
C'est pour ça qu'on a cette semaine en fait bossé en collaboration avec les gens. Il y a plusieurs choses. En gros, on demande pas à tout le monde d'être un super designer. Ce qu'on veut dire, c'est que je pense que les gens qui viennent bosser chez nous maintenant aussi viennent bosser parce qu'ils ont envie de faire des trucs comme ça. Donc il y a déjà aussi le côté des gens qui sont attirés par le fait de dire tiens, j'ai envie de bosser sur un produit qui me plaît à moi aussi et que je trouve stylé. Donc ça c'est ça fait partie aussi de la marque et des gens qui viennent chez nous. Et la deuxième c'est de faire un bon produit, c'est aussi savoir prendre du feedback, c'est-à-dire en gros considérer que le design ça va être important. Tu peux, t'as pas le droit de sortir un truc si au moins tu l'as pas fait review par quelqu'un de l'équipe qui est censé être un validateur design, donc soit un designer, soit certains éléments, même un ingénieur de la team qui ont un bon œil design, et d'apprendre aussi un peu au fil du temps avec les guidelines que nous qu'on crée, mais surtout le contenu visuel qui sort de chez nous, il y a un designer qui a bossé dessus, donc forcément tout ce qui sort de la boîte va être plus ou moins Linéaire brandé visuellement. Après, sur le contenu, on a aussi beaucoup, on bosse beaucoup sur la copie aussi. Il y a beaucoup de contenu écrit chez Linéaire, c'est pas que du visuel. Et donc ça, c'est un truc, une ADN qu'on a créée en interne et qu'on maintient, et on pousse les gens en permanence à être sûr que de leur coup quand ils vont faire quelque chose, donc de l'avoir partagé et d'accepter de prendre des retours de tout le monde, de l'équipe en permanence sur ce que tu sors. Donc ça au début, certaines personnes qui sont peut-être un peu moins informées sur ces sujets-là, mais dont on sent qu'ils ont de l'appétence, c'est-à-dire réfléchir, bah oui, il y a un utilisateur qui va l'utiliser, quoi. Tu vois ce que je veux dire, un des trucs qu'on peut voir des fois chez des profils plus ingénieurs aussi, où je sais que c'est souvent un problème de gens qui veulent construire pour construire,
ouais,
mais qui oublient des fois qu'il y a un utilisateur derrière. Donc ça, typiquement, si on se rend compte que c'est des gens comme ça, on va pas les engager.
Ok. Et du coup, sur la partie plus produit, vous avez cette même logique de vous dire on va essayer d'aller jusqu'au petit truc un peu shiny qui va apporter une petite touche de delight plutôt que de shipper pour shipper, ou de... Comment ça se passe? Parce que là, pour la page marketing, je comprends l'enjeu qui est d'attirer et de vendre. Est-ce que pour le produit, la logique est la même, ou là, vous êtes plus dans une logique du il faut que ça marche et le reste, on s'en fout?
Alors, ça dépend. Non, alors, dans l'idée, on a, en fait, en gros, on appelle ça le magical detail chez nous. C'est un peu un truc qu'on essaie de brander comme ça. C'est-à-dire que quand tu utilises le produit, t'es ce côté un peu magic en disant tiens, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Et bah ouais, en fait, tu peux le faire. Donc, ça, c'est un truc genre avec des clics droits, avec des shortcuts, avec des commandes menu, etc. Donc, ça, c'est un truc, c'est une philosophie de produit qu'on a depuis le début. On est utilisateur aussi de notre propre produit. Donc, nous, on a envie de kiffer aussi quand on utilise. Donc, ça, c'est un premier plan. T'as des parties dans le produit qui sont beaucoup plus marketing oriented sur toute la partie onboarding, par exemple, ou la feature discovery. Là, on va vraiment un peu plus donner de shiny effect, etc., parce que c'est quelque chose qui est encore pour nous du marketing. Après, sur l'usage, le shiny effect, il arrive différemment. Et là, il arrive sur aussi l'exécution technique de la team, où on a un loading time très très court avec des bases de données énormes. Donc il y a aussi toute la partie que les gens voient pas. C'est pour ça que l'ingénieur est très important chez nous. C'est qu'en fait la performance technique et de rapidité d'affichage est quelque chose qu'on regarde énormément. Donc des fois en design, on va optimiser pour pas avoir trop de données des fois sur certains écrans, ou en tout cas les displays d'une certaine manière qui fait que le loading time va être réduit, parce que ça fait partie de l'expérience non visible entre guillemets. Et si elle est visible, c'est qu'il y a un problème. donc c'est aussi ces parties là
Donc il y a tout un travail sur l'expérience utilisateur, non pas visuel, mais...
Nous, on se voit plus comme un outil qu'un service.
Okay.
C'est-à-dire qu'on a envie que les gens l'utilisent un peu pour créer un peu ce qu'ils ont envie de faire, de créer leur process, de manipuler un peu les données comme ils veulent, dans le cadre de Linéa. Sur l'analytics, pareil, on a développé un tool d'analytics l'an dernier qui était un peu parti de cette philosophie-là, c'est-à-dire comment tu... Est-ce que l'analytics, c'est export de données, t'analyses, ou est-ce qu'en fait, t'as pas envie d'analyser des lives, et quand tu vois un truc, tu cliques dessus, et d'un coup, bah, en fait, ça va te rediriger quelque part pour te montrer d'où vient ce problème. Donc, de rendre les données interactives. En fait, un peu des challenges, des fois ingénieraux ou même design, où tu te dis, tiens, en fait, est-ce qu'on essaie pas de repenser la manière dont ces trucs sont un peu figés actuellement dans notre activité, quoi.
Et ça, qui le pousse? C'est les ingés, c'est vous, c'est le pro?
C'est nous. Enfin, c'est les deux. En fait, en gros, on a une vision de nous on veut aller en tant que produit. On a aussi des retours d'utilisateurs. On a un peu grossi avec nos utilisateurs, donc des fois on a des teams qui ont des besoins qu'on n'a pas, et notre idée c'est pas forcément de dire user A nous a demandé ça, on va lui donner ça. C'est de comprendre des problématiques plus générales que les gens ont sur des fois une taille d'équipe ou un type de projet qu'ils sont en train de construire, et de réfléchir à comment en fait ça serait la manière la plus cool de résoudre ce problème, en fait.
Mais ça, du coup, comment vous le faites? Je veux dire, vous récupérez un besoin, vous essayez de comprendre le problème, comment ça se passe, comment vous faites pour trouver le problème, apporter de la solution? Je sais.
Alors, bah, ça part de plusieurs trucs. Déjà, c'est qu'on a en fait on a chez nous un truc qui s'appelle le Goli, c'est-à-dire que une fois par enfin tout t'as dans ça tourne en fait entre les ingés, mais ils font du support pendant une semaine de manière régulière. Le design, moi je suis tout le temps dans les Slacks de communauté, où je regarde tout ce qui se passe sur Twitter ou autre. Donc le lien entre le support, déjà le produit, il est quasiment c'est une feuille de papier, quoi. On est tout le temps en train de bosser ensemble. Donc ce qui fait que c'est pas forcément je me mets en mode recherche, je me mets en mode produit, c'est plus en fait tous les jours j'ai de la recherche qui va me tomber dessus, ou tous les jours je vais voir des problèmes passer. Et soit je vais les noter quelque part, soit souvent on va les stocker on a un projet sur Linéa qui est que pour la course A par exemple, on va le stocker quelque part. Donc le jour où on veut bosser sur ce truc là, bah je pourrais avoir ces archives un peu de problème, ou des fois en fait je me rends compte que bah au fil du temps il y a un problème sous-jacent qui revient de plus en plus. Donc c'est très manuel en fait finalement, mais c'est plus une routine quotidienne qui fait qu'en fait les problèmes tu les vois arriver, ou quand tu voulais les résoudre tu les connais depuis très longtemps en fait. Okay. Mais c'est pas à s'interroger demain matin sur attends il faut que je résous ce problème là, c'est vraiment apprendre ce problème par cœur, ouais. Et le voir au sein de le l'entendre de plein de bouches différentes qui te fait réaliser qu'il y a peut-être un truc à faire avant.
Ok, donc t'as une direction de la boîte et en même temps un flux continu de retour qui te permet de savoir vers où vous voulez aller et...
C'est ça, et l'idée c'est d'onboarder aussi toute l'équipe, que justement ce truc de Goli où tout le monde participe un peu au support d'une certaine manière, c'est que en permanence les gens dans l'équipe se rendent compte de où est-ce qu'on est le produit, nous en interne de ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, mais qu'en fait toi quand tu commences à bosser sur une feature tu te dises ok je suis en train de résoudre un problème pour quelqu'un, et ce problème il existe depuis longtemps, pourquoi il existe etc, mais que ça soit un truc qui soit inconscient en fait, dans, qui soit pas forcément non plus figé dans un PowerPoint quoi.
Ok, très clair. Ça fait 3 ans que t'es chez Linear maintenant?
Ouais, plus que 3 ans maintenant bientôt, ouais.
Plus, ouais. C'est quoi la suite pour l'entreprise et pour toi?
Bah on vient d'annoncer la levée de fonds là cette semaine, donc.
Donc au moment où on enregistre, hein, on est en septembre.
C'est déjà ouais voilà au moment de septembre pardon, on a annoncé ça la semaine dernière, donc encore beaucoup de choses à construire. mon avenir à moi je suis très content là où je suis actuellement, je suis super content de enfin aussi rencontrer une boîte où je démarre depuis tout début qui a pris une ampleur comme ça. Avec mon travail, donc c'est vrai que je suis très très lié au projet actuellement et donc je me sens très à l'aise là-bas. Après on verra, je sais pas, j'ai pas du tout planifié encore pour l'instant.
Bien sûr.
Comme t'as pu le voir, c'est un peu des histoires de rencontres et de discussions, donc tout peut changer très vite, mais bref. Par contre, sur la partie produit, en fait, je pense qu'on est en train de dépasser un peu la mission originale, où on arrive un peu au stade où on a été, à la base, on est un outil du tracking. Et là, on est en train d'évoluer vers quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire qu'on commence à rentrer avec des boîtes de plus en plus grosses qui ont des problématiques de stratégie, de planification de projet beaucoup plus grandes, qui ont besoin de partage de connaissances et autres. Donc, en fait, on est en train de faire évoluer aussi le produit énormément dans cette direction-là, tout en gardant les core features qui font notre succès pour l'instant. Donc, il y a énormément, comme je te disais, moi je fais beaucoup de R&D chez Linear, donc c'est le produit que je vois actuellement en prod versus ce que moi je vois tous les jours, il est un peu différent, et l'idée c'est justement de montrer comment on peut grossir, et il y a encore plein de défis pour nous résoudre, mais le marché est immense, donc on est une goutte d'eau pour l'instant.
Et d'ailleurs sur ces sujets de R&D, c'est pas comment toi tu le vis, parce que c'est des sujets sur lesquels pour l'instant tu vois rien, enfin je veux dire sur lesquels tu réfléchis, mais pour l'instant il n'y a pas forcément de matérialisation concrète.
Ah si. On code R&D, ça veut pas dire qu'on code pas non plus des fois les trucs.
Ok, donc c'est de la R&D plutôt rapide, c'est pas des sujets qui mettent longtemps à diguer, à découvrir, etc.
Ça dépend, en fait c'est ça qui est très dur. Le problème c'est que on estime que tant qu'on n'a pas trouvé une solution qui est bonne,
d'accord,
et qui est cool et que nous on trouve sympa, on va pas le sortir. Donc en fait il y a des fois des problèmes qu'on a mis un an à résoudre parce qu'on avait toujours pas trouvé le truc, mais on avait fait plein de versions. Okay. Il y a des fois je design un truc, il y a un ingé qui a kiffé, la semaine prochaine c'est intégré, c'est sorti, et en fait c'est un truc que ça fait 2 ans qu'on se dit comment on va faire ça un jour quoi.
Mais du coup comment tu détermines que ça y est c'est le bon moment?
C'est à l'usage, c'est vraiment à l'usage.
Mais parce que du coup toi ce sur quoi tu réfléchis après c'est quoi? C'est les devs qui l'intègrent et vous faites des tests en interne, et si ça marche pas vous dites non on va pas l'étendre, ou...
Ça dépend vraiment des fonctionnalités. Là, je te parlais du truc d'Analytics, par exemple. C'était le challenge design que j'ai eu quand je suis arrivé chez Linear il y a plus de 3 ans. On savait un jour qu'on voulait faire l'Analytics. Le Product Analytics, c'est un marché énorme. On a toutes les données chez nous. Pourquoi on ne fait pas du Product Analytics? Le problème, c'est qu'en fait, on ne savait pas toutes les solutions qu'on essayait de designer. Alors, c'était resté au stade de design pendant très longtemps. On ne les trouvait pas intéressantes. C'est qu'on disait, OK, on n'amène pas de valeur. Ça sert à rien. On a essayé beaucoup, beaucoup d'idées. De même, on avait envie un peu de donner la linear touch à tout ça et on trouvait pas comment ça pouvait exister. Donc, qu'était l'intérêt d'un utilisateur d'installer de payer pour cette feature s'il avait un truc 15 fois mieux à côté et en tout cas qui lui apportait pas de valeur. Donc, ça a duré 1 an, par exemple, de builder un truc comme ça. Après, c'était aussi énormément de travail en termes de back-end, etc. Donc, il y avait aussi des contraintes techniques qu'on n'avait pas forcément maîtrisées au départ. Donc, voilà, ça, c'est un truc qui a pris beaucoup plus de temps peut-être que prévu. Il y a des fonctionnalités en fait sur lesquelles finalement on a un peu un truc qu'on aime bien faire, c'est que des fois on a une idée de feature et on va avoir un design où on a déjà une feature assez advanced, mais des fois ce qu'on aime bien c'est sortir 20% de la feature et on sait déjà que les utilisateurs vont nous réserver « Ah, mais si on peut faire ça maintenant, j'aimerais bien faire ça. » Et on attend d'entendre ça, quoi. Et donc, tant qu'on ne l'a pas entendu, bah, en fait, on ne fait pas le reste. Parce qu'en fait, des fois, ça se trouve que si tu n'entends pas ça, c'est que ça se trouve, en fait, ce que tu as fait, ça ne sert à rien. Donc, en fait, on a...
Vous testez un petit peu.
Des fois, on teste un peu. Et aussi, en fait, on se rend compte qu'on peut scope dans des trucs. C'est-à-dire que des fois, en design, tu vas partir super loin. Tu vas créer un truc super compliqué. Mais... comment c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand tu parles à un ingé qui te voit qui fait wow, mec ça va prendre 3 mois. Moi ce que j'entends c'est tiens ça va prendre une semaine quoi. Donc en fait qu'est-ce qu'on enlève et des fois en fait tu simplifies beaucoup plus aussi ton expérience avec aussi ce problème de temps et t'arrives à shipper des fois quelque chose qui a un impact énorme et qui demande beaucoup moins de ressources. Donc c'est aussi ce travail de permanence de se dire comment on peut scope dans des trucs et donc des fois en design t'as un éclair de génie et tu trouves en 2 secondes une solution qui marche trop bien et des fois ça prend du temps quoi.
Ok, très clair. Avant qu'on en vienne aux questions de la fin, est-ce qu'il y a un sujet que t'aurais voulu qu'on aborde qu'on n'a pas abordé ou une question que t'aurais voulu que je te pose que je ne t'ai pas posée?
C'est une bonne question. Moi, j'aimerais bien savoir un peu où est-ce que ça en est, l'écosystème français des startups en ce moment sur le design. Je trouve ça super cool ton podcast. Mais c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas assez encore de monde dans ce secteur, ou en tout cas que je ne vois pas assez de produits français trop cool en design qui sortent ces derniers temps. Quoi. Et ça me manque.
Donc tu me poses une question à moi, c'est ça ?
Je pose la question de savoir et qu'est-ce que je pense du design français dans la tech en ce moment. Je dis, il manque et je veux voir plus de beaux produits.
Tu veux voir plus de beaux produits ? Mais ça m'amène une question et on reviendra sur ce sujet après. Pourquoi t'es parti à Lisbonne ?
Franchement, c'est coup de cœur sur la ville, quoi.
Ok, il y a rien à voir par rapport à la scène tech là-bas ou par rapport au boulot.
Je suis pas du tout connecté à la scène tech à Lisbonne. Et si vous venez à Lisbonne pour la scène tech, restez à Paris.
Il y a pas N26 qui est là-bas ou qui était là-bas ?
Ouais, c'est un peu juste. Il y a quand même plus de belles boîtes à Paris que juste N26.
J'avoue, c'est un peu juste.
Je sais même pas si. Je crois pas. Hein. Je sais pas.
Il me semble qu'il
peut-être.
Y ait, fut un temps. Mais donc du coup, la scène française du design qui est. Qui grossit petit à petit.
Ah, mais qui a grossi de manière géniale, je trouve. Mais justement, moi, j'aimerais bien, et c'est pour ça que c'est cool ton podcast et que j'avais envie de venir parler aussi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de débats un peu, que ce soit un peu plus chaud des fois, qu'on voit un peu plus de hot tech sur la scène française où j'ai l'impression qu'il y a des super designers, mais que ça manque un peu de challenge des fois. Quoi.
Je pense que cet épisode, ça s'intitulera Les design systems ne servent à rien, je vous déteste tous. non, je rigole. Mais oui, c'est pour ça aussi que je voulais te recevoir, parce que toi, tu as un point de vue qui est un peu différent. Et en fait, pour le coup, à la fin de cet épisode, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que vous faites qui m'ont fait hérisser le poil, tu vois, genre aller faire des screenshots pour essayer de modifier en live et tout. C'est des choses où, en fait, en y réfléchissant et après que tu en aies parlé, je me dis, bon, en fait, c'est pas si déconnant. Oui, c'est vrai.
Essayez, vous allez voir.
Je pense que si je propose ça demain, tout le monde va dire pourquoi.
Non, mais en fait, surtout ce qui est cool avec ce truc, c'est que tu designes par rapport à ce qui est vraiment en prod, quoi. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est aussi un des problèmes du design system, c'est que refaire ce qu'il y a des fois en live, c'est passer des heures dans des blurs dans l'app. Si je m'amuse à faire mes réglages de blur pendant 3 heures, je design pas, quoi, en fait. Oui. Voilà.
Oh, t'as pas envie de t'amuser à faire ça ?
J'adore faire ça, mais j'ai pas le temps.
Ouais. Est-ce que t'as quelqu'un à me recommander ? Parce qu'en fait. Finalement, la personne qui était la plus recommandée, c'est toi.
Ah.
Et donc, du coup, j'ai grillé ma dernière cartouche.
Non,
est-ce que tu as quelqu'un à me recommander, à inviter dans le podcast ?
Alors, moi, j'adore Laurent Delray. Je sais pas si tu vois qui c'est. Mmh. C'est un designer français. Alors, il habite pas en France, mais sauf où il passe souvent à Paris. Peut-être qu'il habite en France maintenant. C'est un designer qui bosse chez Snapchat.
Ok.
Si vous ne le connaissez pas, allez suivre-le sur Twitter. Il fait plein de small experiments du UI.
Est-ce que Snapchat autorise ses designers à parler ?
Je sais plus s'il est encore chez Snapchat, mais en tout cas, il fait. Non, mais Laurent, je suis sûr qu'il a plein de choses à dire en plus, à mon avis.
Ok.
Donc, je conseille. Après, il y avait Luc Chessac, je sais pas si tu connais.
Ouais.
Il est déjà passé, non ?
Non.
Ouais, parce que j'ai regardé, il n'était pas passé. Je vais être sûr, mais... super designer aussi, un peu dans le style aussi, faire beaucoup d'illustrations, de la 3D, expérimenter un peu ailleurs. Je trouve que ça, c'est toujours un mec avec qui j'ai un peu accroché en termes de manière de bosser et d'expérimenter entre, des fois, le visual et le produit. Donc, je pense que c'est un bon profil aussi, qui a un parcours aussi assez impressionnant, qui a créé plein de boîtes, qui a fait une agence, enfin... Super gars, je pense que ça pourrait être pas mal dedans.
Qui est à Bordeaux maintenant, c'est ça ?
Je crois qu'il a toujours été à Bordeaux, mais je sais pas.
Enfin, sa boîte est à Bordeaux.
Je suis pas en contact avec. Je crois qu'il est aux US maintenant, je suis pas sûr. Mais je pense qu'il est peut-être à Bordeaux. Enfin, en tout cas, il doit se mettre à Bordeaux.
Ok, donc faut que je regarde.
Ouais.
C'est tout ?
C'est tout.
Ok. Et du coup, petite dernière question, est-ce que tu as des ressources à nous recommander ?
Alors, j'ai plein de ressources à vous recommander. Non, je rigole. Moi, j'adore Twitter. Donc je traîne, c'est vrai qu'avant j'étais très dribble, mais en fait maintenant moi je suis beaucoup de retour sur Twitter, parce que je trouve qu'en fait il y a 15 fois plus de trucs, il y a quand même beaucoup de designers qui partagent des choses. Ensuite aussi un truc que je conseille à beaucoup de gens, c'est d'aller voir un peu ailleurs que la tech pour de l'inspirational. Alors en ce moment je regarde beaucoup de trucs sur les montres, je sais que tout le monde est un peu là-dedans aussi, mais j'adore les UI de montres en ce moment. Il y a un patrimoine de dingue là-dessus. Il y a énormément de care sur la brand, sur l'histoire, sur la typographie. C'est des gros fans de typographie. C'est du Swiss design, donc c'est quand même que c'est pas des mauvais. Et donc je conseille à vachement les gens d'aller regarder un peu tout ce qui se fait dans l'univers des montres. C'est super inspirant pour la tech, je trouve. C'est assez assez connecté sur la manière de survendre de la technique et tout à des gens. J'ai passé mon permis il y a pas très longtemps, donc je suis à fond les bagnoles aussi maintenant. Ce qui était pas du tout mon cas avant, et j'adore les dernières planches de créa de chez Mercedes, toutes leurs univers un peu qu'ils ont créé en ce moment sur les dernières voitures électriques, mais car industrie aussi, je trouve ça dingue. Mon père était beaucoup là-dedans et j'aime toujours pas très intéressé, je crois que c'était un truc de beauf. Et en fait, je deviens un beauf et c'est génial parce qu'en fait, il y a plein de trucs hallucinants à aller voir sur les voitures. Donc je conseille de malade d'aller voir un peu vraiment, sortez de la tech, la mode, on est en France, il y a des milliards de trucs. Je pense que ça donne beaucoup plus d'idées que de regarder des fois des UI. Et après, si vous avez des problèmes de base dans vos UI, je trouve que Apple Design System, les ressources qu'ils donnent d'accès sur les designers, ils ont des vidéos qui sont vraiment, pour moi, si vous regardez toutes leurs vidéos, c'est comme aller à l'école, quoi. C'est vraiment dingue. Il y a des super ressources sur comment je fais un graphe, par exemple. Et c'est super basique, c'est super simple. Mais en fait, des fois, c'est ça qui marche le mieux. Et Apple, c'est un peu les champions de ça. Allez regarder les designer guidelines de Apple. Si on fouille un peu, il y a des vidéos, il y a plein de ressources sur les onboarding, les trucs comme ça. Et c'est des gros, gros classiques à se faire parce que c'est vraiment des mises au point. Quand tu sais plus quoi faire, va voir Apple, c'est toujours, ça marche toujours malgré tout, quoi.
Trop bien. Eh ben, je mettrai ces quelques ressources dans la description.
Ouais.
Et du coup, j'imagine que si les gens veulent te contacter et discuter avec toi, on les renvoie vers Twitter.
Twitter, ouais.
Eh ben, très bien.
Twitter only.
Est-ce qu'on a encore le droit de dire Twitter ou est-ce qu'il faut dire X ? Je ne sais toujours pas.
Je suis pas en contact avec Elon, mais dès que je sais, je te dis.
Elon, si tu nous écoutes. Eh ben, écoute, Adrien, merci beaucoup pour ton temps.
Merci, Gauthier.
C'est chouette de discuter avec toi et de découvrir ce point de vue un peu différent. Et puis je te dis à très bientôt.
Merci.
Salut.
Au revoir.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, alors n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. Tu peux également en profiter pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Tu peux enfin t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée et activer les rappels pour être informé dès la sortie d'un nouvel épisode pour pouvoir l'écouter. Allez, on se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel épisode. Salut.